Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h58, c'est lundi, c'est la reprise, bon courage. On est ensemble jusqu'à 9h, on se tient chaud. Va-t-on payer certains produits plus chers demain? Le jus d'orange, la pistache, les motos, le gaz naturel liquéfié et pourquoi pas même les produits numériques. Conséquences possibles du bras de fer entre l'Europe et les États-Unis. Donald Trump menace de faire grimper les droits de douane de 10% supplémentaires si les Européens ne le laissent pas récupérer le Groenland. Face à la possibilité d'une nouvelle guerre commerciale, l'Europe doit être ferme et crédible. Voilà le parti pris de la députée européenne, ancienne ministre Nathalie Loiseau. En a-t-on vraiment les moyens? Je lui pose la question dans 10 minutes. Et puis le budget, on y est presque, mais à quel prix? C'est sur RMC que ça se passe. La ministre du budget, Amélie de Montchalin, est mon invitée dans le face-à-face. Ce sera donc à quelques heures seulement du dénouement. Et puis, ultime cadeau aux socialistes, le gouvernement a annoncé hier que les 300 plus grandes entreprises de France seront finalement à nouveau mises à contribution. La surtaxe de 8 milliards d'euros sera bien inscrite dans ce budget 2026, deux fois plus que ce qui était annoncé. Pilule difficile à avaler pour les patrons. On les entendra à 7h40 sur RMC, mais je vous attends, vous, au 32-16. Venez donc réagir si vous êtes justement patron, artisan, commerçant, ce budget. En voulez-vous? Le WhatsApp d'RMC 06 12 424 424 et le 32-16, bien sûr. Dans un instant, le journal de 7h.
Très bon réveil à tous. Merci d'avoir choisi RMC. Il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Un TGV déraille avant de s'encastrer dans un autre train en circulation. Le choc en Espagne, bilan dramatique et toujours provisoire. 21 morts, des dizaines de blessés. Nous serons en direct de Madrid dans quelques instants. Deux quartiers de Narbonne, en partie évacués hier soir sur décision de la préfecture en raison de fortes pluies qui s'abattent sur la région. Cinq départements du sud sont en vigilance orange. Nous irons à Narbonne dans ce journal. Et de la liesse de Dakar aux larmes de Rabat dans un match électrique. Le Sénégal remporte la CAN 1-0 face au Payotte, le Maroc à terre.
Terrible collision, donc collision entre deux trains en Espagne.
Une nuit de profonde douleur, réagit le Premier ministre espagnol après ce drame hier soir entre Malaga et Madrid. Le bilan est extrêmement lourd, toujours provisoire. 21 morts, au moins une trentaine de personnes sont gravement blessées à Madrid. Et en direct, Pierre Chaperon, correspondant RMC, à l'origine du drame. Pierre, le déraillement d'un train.
Oui, les wagons de l'arrière d'un train à grande vitesse opérant entre Malaga et Madrid qui déraille sur une ligne droite et qui percute un autre train lancé à vive allure dans le sens inverse. Il est 19h39 aux alentours d'Adamous, une localité à une trentaine de kilomètres au nord-est de Cordoue en Andalousie quand les faits se produisent. Une sorte de tremblement de terre, un grand coup de frein et des trains plongés dans le noir, des scènes de chaos, un film d'horreur, comme l'ont relaté les survivants de l'accident le plus tragique en Espagne depuis plus de 12 ans.
Et à 7h, Pierre, une inconnue, la cause du déraillement du premier train.
Un accident extrêmement étrange, difficile à expliquer pour les experts, comme l'a dit le ministre des Transports en Espagne, Oscar Puente, un ministre groggy, défait, comme le reste du pays ce matin. Le train était neuf, c'est-à-dire qu'il avait moins de 4 ans d'ancienneté et la ligne de chemin de fer avait été rénovée en mai dernier. Une enquête indépendante a été ouverte. Elle devrait durer de nombreuses semaines.
Pierre Chaperon, directeur de Madrid ce matin pour RMC. Jusqu'à 2 mois de pluie en quelques heures seulement, voilà ce qui est déjà tombé cette nuit sur l'Hérault et l'Aude. 2 des 5 départements du sud en vigilance orange, pluie, inondation ou crue. Il est tombé 77 litres d'eau par mètre carré à Narbonne. C'est un record depuis 4 ans. Jean-Wilfried Forquès, vous êtes sur place ce matin en direct pour RMC Narbonne où deux quartiers ont été préventivement évacués et partiellement évacués sur décision de la préfecture. Mesure de précaution, Jean-Wilfried, en raison de forts cumuls de précipitations.
Oui, c'est ça. Les habitants ont reçu hier soir sur leur portable, Thibault, un message d'alerte leur demandant de quitter effectivement leur domicile, des logements qui sont situés à proximité d'une petite rivière, le REC de Veyre. Plusieurs personnes ont quitté leur domicile. Une soixantaine de personnes a passé la nuit dans le parc des expositions où du matériel était à leur disposition. Ils ont pu passer la nuit, en tout cas au sec. Ce qui pose problème, effectivement, ici, c'est un petit ruisseau gorgé d'eau ce matin. C'est le REC de Veyret. Pour l'instant, il n'a pas débordé, mais il est sous surveillance par les autorités depuis quelques heures maintenant, notamment par les pompiers. On a vu passer pas mal de patrouilles de pompiers ce matin à proximité de ce petit ruisseau, mais également des patrouilles de gendarmerie. Ruisseau sur surveillance, les transports, les écoles sont à l'arrêt, pas de transport scolaire par exemple, et toutes les routes à proximité de cette petite rivière ont été déviées ou interdites à la circulation.
Jean-Wilfried Forquès, ce matin, Narbonne pour RMC.
RMC 7h04, 49.3 ou ordonnance. On connaîtra ce soir le choix de Sébastien Lecornu.
Un conseil des ministres sera organisé dans l'après-midi. Ce sera le moment pour le Premier ministre d'annoncer son choix pour le budget de l'État. Thomas Becker, service politique RMC, est avec nous ce matin. Thomas, Sébastien Lecornu en passe d'obtenir l'aval des socialistes avec une ultime concession.
Oui, le PS obtient gain de cause sur un des points clés du budget 2026, la surtaxe des grandes entreprises. Les 300 plus grands groupes français contribueront en 2026 à hauteur de 8 milliards d'euros, confirme le gouvernement. En clair, c'est une prolongation d'une taxe créée l'an dernier et qui était à l'origine exceptionnelle. C'est pour ça que les députés et les sénateurs l'avaient supprimée. Le Premier ministre anticipe déjà la contestation des patrons. Dans un courrier, il assure que les entreprises de taille moyenne seront exemptées et que le reste des règles fiscales applicables aux entreprises est stabilisé. Avec cette ultime concession sur les recettes, le Premier ministre a surtout scellé la non-censure du Parti Socialiste. Boris Vallaud, patron des députés PS, le confirme ce matin dans Le Parisien. Les annonces vont dans le bon sens et permettent d'imaginer la non-censure. C'est tout ce que cherche le Premier ministre pour enfin adopter le budget. Il doit désormais trancher la méthode, les ordonnances encore jamais utilisées ou le 49-3 auquel le Premier ministre avait renoncé.
Et cet ultime cadeau au Parti Socialiste, ça provoque la colère des patrons. À 7h40 dans ce studio, la représentante de Croissance Plus, association des patrons, viendra réagir. Et puis à 8h30, c'est la ministre du Budget, Amélie Nonchalin, qui sera mon invitée dans le face-à-face.
Un député et sénateur appelé à se prononcer sur la situation internationale ce lundi débat sans vote à propos du Venezuela, mais aussi du Groenland, ciblé par Donald Trump. Le président américain menace d'appliquer une surtaxe douanière aux pays qui soutiennent le territoire autonome, 8 pays européens. Prépare la riposte. Une réunion est prévue dans quelques jours avec sur la table la possible activation de l'instrument anti-coercition à la demande d'Emmanuel Macron, arsenal permettant de limiter les importations ou encore de rehausser les tarifs douaniers. Les bovins, finalement, bienvenue au salon de l'agriculture, écarté par la direction. Il n'y a pas de risque, dit la ministre du secteur, évoquant l'immunisation des troupeaux de la dermatose nodulaire. Pas suffisant, Martin Lange a rassuré les éleveurs réticents à l'idée de se rendre porte de Versailles le mois prochain.
Oui, selon Annie Genevard, il n'y a aucune raison sanitaire à l'annulation de la venue des bovins puisque 90% du territoire national est désormais en zone indemne ou en zone vaccinale. Un avis partagé par Jeanne Brugère-Picou, vétérinaire.
Je dis même qu'il n'y a plus de risque. Il faut que l'immunisation se fasse en 3 semaines. Donc on voit bien que dans les zones à risque, l'immunisation est terminée. Je me rappelle avoir envoyé quelques documents. J'avais marqué clap de fin de la DNC le 18 janvier.
Le 18 janvier, soit hier, jour de l'interview de la ministre. Pourtant, renoncer au salon de l'agriculture cette année reste la bonne décision pour Pierre Debosque. Il élève des veaux dans la Sarthe.
Il faut rester raisonnable par rapport à cette maladie qu'on a du mal encore à cerner. Il faut rester sur les décisions qui ont été prises par les éleveurs, par respect pour ceux qui ont abattu leur cheptel. Je pense que n'importe quel éleveur est d'accord avec cette décision. C'est beaucoup plus sage.
Annie Genevard qui précise qu'elle respecte le choix des éleveurs terrifiés par les risques qu'ils encourent.
L'ouverture des inscriptions sur Parcoursup cet après-midi est le début du stress pour des milliers de lycéens et des étudiants qui ont jusqu'au 12 mars pour faire leurs vœux.
7h07 sur RMC, le Maroc à terre devant son public.
Une fin de match complètement folle hier en finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui a tourné donc à l'avantage des Sénégalais en liesse, vainqueurs de la compétition pour la deuxième fois de leur histoire au terme des prolongations. 1-0, une deuxième étoile pour les Lions de la Teranga que les Marocains rêvaient d'aller chercher chez eux après 50 années de disette. À Rabat, la désillusion est terrible, Nicolas Pelletier.
Oui, sous la pluie, tête basse et dans le silence, les supporters marocains accusent le coup à la sortie du stade.
C'est le foot, faut un gagnant, faut un perdant. Aujourd'hui, c'est le Sénégal qui a eu ce petit truc en plus. Ils ont marqué un but et voilà, on a raté un pénalty. Le foot, ça se joue à rien.
C'était un film ce qui s'est passé aujourd'hui. Ils ont pas démérité. Malheureusement, c'est ce qui arrive dans le football.
La belle histoire marocaine semble être écrite lorsque l'arbitre siffle un pénalty à la 97e minute. Une joie immense, un stade en fusion, mais Brahim Diaz loupe sa panenka. Amine n'en revient toujours pas.
Brahim Diaz qui touche une panenka en finale de Cannes pour faire gagner une Cannes à son pays depuis des années et des années, c'est inadmissible. Il n'y a pas assez de confiance, il ne peut pas se permettre de faire ça.
À domicile, l'échec est immense. Le sélectionneur Walid Regragui déçu et désabusé.
À la fin, c'est un scénario hitchcockien avec ce pénalty à la dernière seconde. C'est malheureux pour le peuple marocain, surtout. Ça fait très mal au cœur parce qu'on était jamais, je crois qu'on n'est jamais passé aussi proche d'une Coupe d'Afrique qu'aujourd'hui.
Un match à oublier pour tout un pays, même si cette rencontre est entrée hier soir dans la légende de la Coupe d'Afrique.
Et puis en Ligue 1, Lyon se replace à la 4e place après sa victoire face à Brest, 2-1 hier soir en clôture de la 19e journée.
C'était le journal de Thibaut Texer, il est 7h09 sur RMC, vous en parliez Thibaut, c'est le top départ aujourd'hui pour les inscriptions dans Parcoursup. Vous êtes nombreux à témoigner, Stéphanie est avec nous au 32-16 depuis la Gironde, bonjour Stéphanie.
Oui, bonjour Apolline.
Stéphanie, comment ça va? Vous vouliez réagir notamment au fait que c'est devenu si compliqué Parcoursup, qu'il y a désormais des associations ou des professionnels qui font leur beurre là-dessus, en proposant du coaching, parfois jusqu'à 1000 euros pour accompagner les élèves et les familles dans l'inscription. Ça vous choque, Stéphanie?
Oui, je trouve ça tout à fait honteux et scandaleux, effectivement. J'ai moi-même un fils en bac qui passe donc l'examen en fin d'année.
Ouais.
Et donc, nous sommes concernés par Parcoursup. Et quand j'entends qu'il y a des parents qui sont obligés ou qui préfèrent passer par des coachs pour pouvoir passer ce cap de Parcoursup, je trouve ça scandaleux parce qu'on a des quand même dans les lycées et dans les collèges des gens qui sont payés pour accompagner nos enfants et pour les diriger et les renseignés, qui s'appellent des conseillers d'orientation, ouais, des CPE, et qui sont là pour ça.
Et qui font bien le job ou pas? Parce que là, c'est ça le problème.
Pas du tout. Voilà. Non, pas du tout. Ils font pas leur job, parce que quand on va les voir, ils sont jamais disponibles, ou quand ils sont disponibles, ils vous renvoient sur des sites internet. Donc c'est complètement scandaleux. On paye quand même ces gens, hein, avec nos impôts également, hein, éducation nationale, hein, donc.
Oui, en fait, l'école ne remplit plus son rôle. Mais c'est la même chose qu'avec les petits cours, je vais vous dire. Moi, je trouve ça assez hallucinant de voir que désormais vous avez plein de parents, alors je sais pas si c'est votre cas, mais qui effectivement se disent je vais donner des petits cours, et puis alors c'est la surenchère parce que du coup les gamins ils ont la trouille parce qu'ils se disent moi il y en a plein qui prennent des petits cours dans ma classe, alors si je prends pas en plus des petits cours. On a l'impression qu'au fond l'éducation nationale, que ce soit sur Parcoursup ou sur le reste, ne remplissant pas son rôle, c'est des services privés très chers qui essaient de compenser.
Mais tout à fait, que ce soit Parcoursup ou effectivement ne serait-ce que l'absentéisme de certains professeurs. C'est pas normal que nous, parents, on soit obligés de combler l'absentéisme de certains professeurs également par des cours particuliers qui coûtent énormément cher, dont tout le monde n'a pas forcément non plus les moyens de pouvoir payer.
Et ça crée une autre forme d'injustice.
Et ça crée une autre forme d'injustice, et l'école n'est pas égale pour tous. Et l'école n'est plus égale pour tous. Donc, certains parents choisissent de mettre leurs enfants dans des établissements privés, et ça, je le conçois, je le respecte, il n'y a pas de souci. Mais si nous, on continue à se battre pour notre éducation, que l'éducation nationale et que le gouvernement se battent également pour conserver...
Et dans ces cas-là, il faut qu'ils soient au rendez-vous et qu'effectivement, ils remplissent au moins ce service pour les parents. Merci beaucoup, Stéphanie, de votre réaction. Vous n'hésitez pas, comme Stéphanie, vous connaissez le chemin. C'est le 32-16. Il est 7h12 sur RMC. Des droits de douane supplémentaires encore pour les pays qui s'opposeraient à la volonté d'annexer le Groenland. Voilà la menace de Donald Trump. L'Union européenne doit absolument répondre d'une seule voix et être ferme. Voilà votre parti pris ce matin, Nathalie Loiseau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancienne ministre et députée européenne. Et vous qui nous appelez, est-ce que vous êtes prêt à payer plus cher les produits importés des États-Unis? Ça pourrait concerner le jus d'orange, la pistache, le gaz naturel liquéfié et peut-être même demain les produits numériques, tout ce qu'on utilise au quotidien. Je vous attends au 32-16, 7h12.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h15 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. 10% de droits de douane supplémentaires dès le mois prochain pour tous les pays qui s'opposeraient à la volonté de Donald Trump d'acheter ou d'annexer le Groenland. C'est la menace très sérieuse du président américain. Est-ce qu'il faut craindre une nouvelle guerre commerciale? Bonjour Nathalie Loiseau.
Bonjour.
Vous êtes députée européenne, ancienne ministre des Affaires européennes. Vous revenez d'ailleurs du Groenland, vous y avez passé une semaine. Vous dites ce matin, et c'est votre parti pris, qu'il faut que l'Europe parle d'une seule voix et réponde de façon ferme et crédible. En a-t-elle les moyens ?
L'Europe a parfaitement les moyens de se faire respecter. De toute façon, c'est un choix historique. Soit on redresse la tête, soit on courbe les chines. Et si on courbe les chines, on sort de l'histoire. Donc c'est pas l'histoire du Groenland quelque part loin, un endroit où personne ne va. C'est la souveraineté européenne qui est mise en cause par Donald Trump, qui pratique une forme de colonialisme du 19e siècle en 2026. Est-ce que c'est acceptable? Non. Est-ce qu'on a les moyens de résister? Oui. On a des vrais instruments pour expliquer aux entreprises américaines qu'elles ont 450 millions de consommateurs à perdre à ce jeu-là.
Ce que vous espérez convaincre, c'est peut-être Donald Trump, mais c'est d'abord les entreprises américaines elles-mêmes, oui, qui, à un moment ou à un autre, pourraient se retourner contre leur président.
Exactement, parce que ce dont on parle depuis hier, l'instrument anti-coercition, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut
Alors,
dire que
l'instrument anti-coercition, faisons un instant de la pédagogie. Effectivement, aujourd'hui, il y aura une réunion à Berlin pour tenter de convaincre les Allemands eux-mêmes d'activer cet instrument. Ça sert à quoi et qu'est-ce que ça peut changer?
Ça a été inventé en 2023. À l'époque, c'est parce que la Chine faisait pression sur la petite Lituanie qui se rapprochait un peu trop de Taïwan. Le jour où on a inventé cet instrument, on n'a même pas eu besoin de l'utiliser, la Chine a reculé. Ça permet aux Européens, s'ils le décident, soit de mettre des droits de douane sur des importations américaines, soit d'interdire les marchés européens à des entreprises américaines, en particulier les marchés publics, au hasard de décider de ne plus acheter d'armes américaines à un moment où on se réarme, de sortir aussi des investissements américains. Bref, on a appelé ça le bazooka. C'est un instrument puissant. Il faut ne pas trembler pour le décider. Les dirigeants européens vont se réunir jeudi à l'initiative du président du Conseil. Dès maintenant, nous, parlementaires européens, en tout cas la majorité pro-européenne, a décidé de suspendre, de geler l'accord commercial qui avait été passé l'année dernière par Ursula von der Leyen avec Donald Trump, qui était un mauvais accord où nous avions des droits de douane et où les produits américains devaient entrer dans le marché européen sans droits de douane.
Donc on peut encore y échapper.
Mais
pour
bien
vous,
sûr,
on peut encore y échapper.
Mais bien sûr, et on doit se mobiliser. Il faut pas avoir la main qui tremble face à quelqu'un comme Donald Trump. L'apaisement a été tenté pendant toute l'année 2025. Ça n'a pas marché. La Chine, quand elle a été menacée de droits de douane vertigineux par Donald Trump, elle n'a pas cherché l'apaisement, elle n'a pas cherché à être aimable. Elle a commencé à contrôler les exportations de métaux rares. Et c'est Donald Trump qui a reculé.
Donc au rapport de force, il faut répondre par la force.
Dans un monde de rapport de force, quand on a des outils, quand on a des atouts comme l'Europe, on les utilise. C'est ce que nous demandent les Européens. Ils ne nous demandent pas d'être tremblants, d'être soumis à Donald Trump. Les Européens sont pro-européens à condition qu'on puisse répondre à leurs attentes. Pas qu'on tremble et pas qu'on soit tête basse face au comportement de Donald Trump. L'Alliance Atlantique, elle est par terre aujourd'hui. Il faut dire les choses, il faut regarder la réalité. Et c'est pas nous qui l'avons abîmée, c'est Donald Trump. Il ne sait pas ce que c'est qu'un allié, il ne connaît que les vassaux.
Donc il faut effectivement réagir et réagir fort. Merci beaucoup Nathalie Loiseau d'être venue dans ce studio ce matin, réaffirmer donc qu'il faut utiliser les outils que nous avons à notre portée et que l'on peut répondre. Députée européenne, groupe Renew et ancienne ministre des Affaires européennes. Et d'ailleurs, sur ce point, vous êtes nombreux à réagir. On vous fera entendre tout à l'heure vos messages, nombreux à réagir et à dire qu'au fond, il faut en effet répondre et répliquer à Donald Trump. À 7h20, l'historien d'Apolline Matin vient de rentrer dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur Chevalier, Jean-Michel Aulas, candidat à la mairie de Lyon, veut un tunnel de 8 km sous la ville de Lyon et c'est un projet qui a peu de chances d'aboutir.
Oui, et ça ne sera pas le premier. Hein. Assécher la Méditerranée ou construire une réplique de Paris, ces projets fous ont réellement existé, mais ils n'ont jamais vu le jour.
Vous nous le racontez dans un instant, il y aura aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes sur RMC. Il est 7h20.
RMC, Apolline Matin.
7h21 sur RMC et RMC Story Canal 23. Quand l'histoire éclaire notre actualité avec Arthur Chevalier. Arthur, l'ancien président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, est toujours en tête des sondages pour les élections municipales de Lyon. Mais une des mesures phares de son programme fait beaucoup parler.
Oui, et ce projet, c'est un tunnel souterrain de 8 km pour désengorger la circulation dans la ville de Lyon. L'opposition dénonce un chantier hors de prix, très difficile à réaliser. Même le ministre des Transports, Philippe Tabarot, qui est pourtant du parti Les Républicains, qui soutient Jean-Michel Aulas, est sceptique. Il a déclaré qu'il y avait plus de chances que l'OL gagne la Ligue des Champions avant qu'on soit à l'inauguration du tunnel.
Alors, on ne peut pas reprocher à Jean-Michel Aulas de faire des propositions ambitieuses.
Et vous avez raison, faire de la politique, c'est agir. Même si ça ne se fait pas, on se souviendra qu'Aulas a essayé, au moins. Des projets fous qui n'ont jamais vu le jour, il y en a eu beaucoup. Apolline, imaginez un peu que pendant la Première Guerre mondiale, on a voulu construire une réplique de Paris à côté de Paris, en plus petit, pour détourner les bombardements allemands.
Mais non.
Mais si, absolument. Alors, en fait, le principe était simple. On s'était dit que si on plongeait le vrai Paris dans le noir et qu'à côté, on construisait un Paris miniature, illuminé, avec des reproductions de tous les monuments, une petite tour Eiffel, un petit opéra, les avions allemands n'y verraient que du feu, donc ils bombarderaient la maquette au lieu de bombarder la vraie ville. Alors finalement, le projet trop ambitieux est abandonné. On a juste eu le temps de construire une réplique de la gare de l'Est.
Un homme a aussi envisagé d'assécher la mer Méditerranée.
Oui, et le pire, c'est que cet homme était assez sérieux. C'était un architecte allemand qui s'appelait Hermann Sorgel à la fin des années 20. Il imagine un projet qui s'appelait Atlantropa avec un but affiché, assécher la Méditerranée pour faire de l'Europe et de l'Afrique un seul et même continent. Alors comment faire ? Eh bien, il voulait construire des barrages sur le détroit de Gibraltar et sur le détroit des Dardanelles. Comme ça, la Méditerranée devenait une sorte de grande bassine.
Et comment on vidait la mer ensuite ?
Alors, il avait réponse à tout, puisqu'il avait soi-disant calculé que l'évaporation ferait baisser le niveau de la mer d'un mètre par an. Et à la fin, eh bien, il n'y aurait tout simplement plus eu d'eau. Alors, il avait tout pensé, tout chiffré. Par exemple, il prévoyait de mobiliser 200 000 ouvriers, rien que ça. Le projet a été plutôt pris au sérieux à l'époque, mais la Deuxième Guerre mondiale l'a finalement balayé.
Il y a certains projets abandonnés qui nous ont quand même coûté très cher.
Et évidemment, c'est le cas notamment de la tour Apogée. La tour Apogée, on a décidé de la construire dans les années 1960 à Paris. Ça devait être le plus haut gratte-ciel de France. Mais quand Valéry Giscard d'Estaing est élu président en 1974, eh bien, il décide d'annuler purement et simplement le projet de la tour. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il n'aimait pas les tours, très simplement. Seulement, voilà, des frais avaient été engagés, donc l'État a été condamné à payer 149 millions de francs aux promoteurs engagés sur le projet.
Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. 7h24, Arnaud Demange.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud. Bonjour. Dans le face-à-face tout à l'heure, mon invité sera la ministre du budget, Amélie de Montchalin.
Ah, 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 miam, miam, miam. Du budget, ça faisait longtemps. Pauline, on sort les pop-corns, c'est du Netflix, c'est reparti. Budget, épisode 257. Il y a du suspense, des rebondissements, de la bagarre, des alliances, des trahisons, des acteurs charismatiques, mais aussi Olivier Faure. C'est super. Ça manque juste un peu de cul, disait Mathieu. Et ce matin, vous recevez...
Non.
Ce matin, vous recevez donc un des personnages centraux, Amélie de Montchalin. Qu'est-ce qu'elle bosse, celle-là ? Ça fait 4 mois qu'elle est jour et nuit à l'Assemblée. Elle négocie avec le RN et LFI. Elle appelle le PS, elle revient vers les LR, elle retourne voir le Cornu. Faut que je rappelle machin. Elle a pas dormi depuis fin septembre. Ses enfants la reconnaissent même plus. Quand ils la croisent, ils l'appellent madame. Qu'est-ce que vous faites chez nous ? Bref, elle a votre vie. Elle a des cernes. Je l'ai vue dans les couloirs, pas encore maquillée. Je me suis dit, tiens, on reçoit le chanteur de Cure ce matin. C'est marrant.
Oh
mais non ! C'est Virginie Despentes.
Oh non,
bref, elle va être belle l'interview. Amélie de Montchalin, bonjour. Vous dormez ?
Non, 49.3, alinéa 3, dans ton cul, LFI. Je suis où ? Pardon. Madame de Malherbe, le gouvernement travaille.
Si vous dormez, moi aussi, ça va me faire dormir, je suis matinalière.
Et en plus, ça finit jamais pour elle. Elle reçoit toujours un coup de fil de dernière minute. Allô Amélie, c'est le Premier ministre. Faut ajouter 2 milliards de dépenses pour faire plaisir aux socialistes. Et voilà, c'est malin, c'est tout raturé maintenant. J'ai 50 couches de Tipex là-dessus, ça ressemble à rien. On dirait la housse de couette d'un ado, c'est n'importe quoi. Mais pour paraphraser un jeune philosophe du RN, où trouve-t-elle toute cette énergie,
ouais.
Elle doit avoir sa petite routine. Salut, c'est Amélie de Montchalin. Mon secret beauté, ma routine énergie bien-être, pour tenir face à toute cette pression à l'Assemblée, c'est de penser à mes enfants, boire du thé, manger des cookies, fait maison. Et ensuite, je me fais un gros rail de coke et je vais tirer à la Kalachnikov dans les bois avant de rejoindre mon club de MMA, me battre contre des ouzbeks de 150 kilos et ensuite torturer des chats. Et après, je suis calme pour écouter Mathilde Panot. Il me dit que je suis nul. Bon, ben nous, on va l'écouter à 8h20. Ouais. Laissez ce chat tranquille, madame. Oh.
Amélie Montchalin, la ministre du budget, donc à 8h30, mais pour l'heure il est 7h27, on se retrouve dans un instant sur RMC pour la météo et le journal, à tout de suite. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. C'est dans une ambiance chaotique que le Sénégal a été sacré champion d'Afrique pour la deuxième fois de son histoire face à des Marocains complètement abasourdis par le scénario de leur défaite. L'Espagne sous le choc ce matin après le terrible accident de deux trains à grande vitesse qui se sont rentrés dedans. 21 personnes sont mortes, une trentaine d'autres sont gravement blessées. Et puis cette question, l'affaire des viols de Mazan aurait-elle pu être évitée? L'inspection générale de la justice rend aujourd'hui son rapport et l'une de ses conclusions fait froid dans le dos.
Le Sénégal a célébré son deuxième titre de champion d'Afrique dans un climat très lourd hier soir.
Les Sénégalais l'ont emporté 1-0 face aux Marocains après prolongation et à l'issue d'un scénario complètement surréaliste, car au bout du temps réglementaire, un but refusé au Lion de la Teranga, puis un pénalty litigieux accordé au Maroc à la 97e minute, finalement raté. Bref, c'était la confusion, Aurélien Tiersin.
Les Sénégalais, tellement furieux de la double décision arbitrale, ont quitté le terrain pour protester. Mais la légende Sadio Mané a joué à fond son rôle de capitaine pour leur demander de revenir sur le terrain.
Je pense que c'est ça qu'on devait le faire. Je pense que c'est un devoir pour moi de faire parce que l'équipe m'écoute, tout le monde m'écoute. Donc quand je vois une telle sorte de choses qui pouvaient arriver, donc ici il y a moyen de l'empêcher. Donc j'ai fait juste ce que je devais faire.
Une décision courageuse qui a payé. Le pénalty marocain est raté. Puis le milieu Pape Gueye marque un missile en lucarne au tout début des prolongations.
Si j'avais marqué, on avait perdu. En vrai, je m'en foutrais. Mais là, on ramène cette victoire au Sénégal. C'est de la fierté parce que c'est la deuxième étoile.
À l'arrivée, une explosion de joie pour les supporters sénégalais présents à Rabat.
Merci Sadio Mané, merci à toute l'équipe, on l'a fait. Le football a gagné aujourd'hui.
Ils ont montré qu'ils sont des bonhommes. Ils ont terminé le match avec l'honneur. Nous, on n'a que l'honneur.
Les Lions de la Teranga rentrent aujourd'hui à Dakar où la fête s'annonce exceptionnelle après la conquête de cette deuxième CAN dans leur histoire.
Il est 7h32 sur RMC et c'est une nuit de profonde douleur. Voilà les mots du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez après le grave accident ferroviaire qui s'est produit hier soir dans le sud du pays, en Andalousie. Choc frontal de deux trains à grande vitesse qui a fait au moins 21 morts et une trentaine de blessés graves. Noelia est l'une des rescapées de cette collision ultra-violente. Elle raconte ce matin à nos confrères d'El País.
J'en tremble encore. Je suis toujours très nerveuse, mais par miracle, j'ai la chance d'être encore en vie. Pour ma part, je n'ai ressenti aucun choc. On était assis dans le train quand tout a commencé à trembler. Je me suis accrochée au siège devant moi et là, le wagon s'est mis à vraiment secouer de plus en plus jusqu'à se renverser sur le côté. Tout a volé, les valises, les sacs. On n'a pas eu le temps de comprendre ce qui nous arrivait. J'ai pu très vite appeler mes proches pour leur dire que tout allait bien pour moi, mais qu'il y avait des blessés très graves, des morts. Moi, j'étais à bord avec un ami et là, je n'ai pas de nouvelles. Je ne sais pas où il est.
Il est 7h33 sur RMC. C'est une des illustrations de la lenteur et des défaillances de la justice. Celle-ci est particulièrement amère puisqu'elle concerne l'affaire des viols de Mazan, pour laquelle l'inspection générale de la justice rend ce matin son rapport, commandé en mai dernier par le garde des Sceaux Gérald Darmanin. Et ce qu'on y apprend, c'est que Dominique Pellicot aurait pu être arrêté beaucoup plus tôt avant de s'en prendre à sa femme Gisèle. Son ADN avait été prélevé dès 2010 et faisait l'objet d'un rapprochement avec une autre affaire, une piste jamais exploitée à cause d'un raté majeur, Alfred Orange.
Elle dénonce la légèreté de la procédure parce que la correspondance de l'ADN de Dominique Pellicot avec une précédente affaire de viol a été envoyée par simple courrier sans suivi et elle s'est perdue. C'est ce que souligne Emmanuelle Piette, présidente du collectif féministe contre le viol.
Bien sûr que c'est révoltant, mais c'est comme si c'était pas si grave. Donc, eh ben, ça va avec. C'est pris à la légère. Je sais pas, moi, il me semble qu'on trouve un criminel, on fait un courrier, mais peut-être on appelle le collègue. Ça veut dire qu'on fait le minimum. Et le minimum, c'est pas assez. Donc, il y a méconnaissance des conséquences du viol et de l'importance de ces crimes.
De son côté, le ministère de la Justice reconnaît qu'encore aujourd'hui, des pièces procédurales majeures sont envoyées sans accusé de réception. Mais Sacha Stropkan, porte-parole de la chancellerie, promet chez nos confrères de BFM TV plus de sécurité et de traçabilité.
On a mis en place des mesures, notamment, tout simplement, à partir du mois prochain, la généralisation des envois de ces rapports de façon sécurisée et traçable par numérique.
Un enjeu majeur à l'heure où le fichier national des empreintes génétiques aide de plus en plus les enquêteurs, avec 7 millions de profils déjà enregistrés.
Il est 7h35 sur RMC et c'est le casse du siècle, comme vous ne l'avez jamais vu.
Trois mois jour pour jour après le spectaculaire cambriolage du Louvre et alors que les quatre membres du commando sont toujours en cours d'interrogatoire, de nouvelles images ont été diffusées hier soir par nos confrères de TF1 et de France Télévisions. Des images issues des caméras de vidéosurveillance de la galerie Apollon, Romain Hougue, qui montrent, on peut le dire, l'impensable.
Oui, ces vidéos viennent confirmer le scénario dessiné par les autorités. Il est peu après 9h30 lorsque l'on voit les deux hommes pénétré dans la galerie. L'un porte un gilet jaune et une cagoule sur le visage. L'autre est entièrement vêtu de noir, casque de moto sur la tête. Le premier se rue sur la vitrine qui renferme le diadème de l'impératrice Eugénie, s'y attaque à coups de disqueuse avant de finir de la briser à coups de poing. Il s'en saisit, la met dans un sac, puis part prêter main forte à son complice sur une autre vitrine qui cède sous les coups des braqueurs. Il dérobe le reste des bijoux, puis repart en courant par la fenêtre d'où ils sont entrés. Pendant ce temps, on voit bien des agents de sécurité sur le côté, mais ce qui frappe, c'est leur stupéfaction, leur impuissance totale face aux malfaiteurs. L'un passe un appel pendant qu'un autre se saisit d'un poteau, ce qui sert à guider les visiteurs. Il le brandit en direction des deux hommes, mais rien n'y fait. Les braqueurs terminent le travail sans aucune entrave en à peine 4 minutes chrono.
Le Louvre, où le mouvement de grève des salariés se poursuit depuis plus d'un mois maintenant et auquel Rachida Dati promet de répondre rapidement avec des décisions majeures pour faire de la sécurité du musée la priorité. La ministre de la Culture ouvre également la porte à un changement de gouvernance.
Et puis le quintet, Élise, 13h55 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 6, Nofix. L'outsider, c'est le 7, Ritano.
C'était le journal d'Élise Dangean. Il est 7h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Jour décisif pour le budget et ultime cadeau au Parti Socialiste. Une surtaxe qui devait être réduite de moitié pour atteindre 4 milliards d'euros. Et bien finalement, les 400 plus grandes entreprises de France vont bel et bien devoir payer 8 milliards d'euros en 2026. C'est donc le double de ce qui était prévu. Décision du gouvernement qui fait grincer des dents du côté des patrons. Bonjour Virginie Calmels.
Bonjour Apolline.
Merci d'être dans ce studio avec nous. Vous êtes la présidente de Croissance Plus qui représente les patrons. Les entreprises sont-elles les grandes perdante du budget 2026? La voix des patrons donc avec vous dans un instant et avec vous tous qui nous écoutez sur RMC, appelez-nous au 3216. Vous êtes patron, artisan, commerçant, est-ce que vous avez l'impression d'être les dindons de la farce de ce budget 2026? J'attends vos réactions au 3216. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h41, merci d'avoir choisi RMC et RMC Story, Canal 23. Pour sauver le gouvernement, les grandes entreprises vont devoir passer à la caisse. Bonjour Virginie Calmels, vous êtes vous-même chef d'entreprise et présidente de Croissance Plus qui représente les patrons. On l'a donc appris hier, ultime cadeau aux socialistes, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises va finalement non seulement être conduite en 2026, mais elle va atteindre 8 milliards d'euros, c'est-à-dire le double de ce qui était prévu. J'imagine que pour vous, c'est une pilule un peu amère.
Oui, la pilule est amère parce que on nous parle des grandes entreprises en oubliant ce qu'est l'économie. L'économie, de toute façon, c'est un ensemble qui est fait de petites et de grandes entreprises. Et donc dire ça va simplement impacter les grandes entreprises, c'est un mensonge ou c'est une méconnaissance de l'économie parce que mécaniquement, ça va se reporter sur les sous-traitants des grandes entreprises qui sont le tissu de PME français.
Oui, parce que le gouvernement promet que les ETP, les TPI, enfin bref, les entreprises qui seraient plus petites, de taille intermédiaire ou de petite taille, seraient épargnés. Mais vous vous dites, ils seront peut-être épargnés par cette surtaxe, mais ils ne seront pas épargnés par les conséquences.
Bien évidemment, parce que, comme je viens de vous le dire, comme ce sont des sous-traitants, de toute façon, tout ça va se répercuter. Il y aura des répercussions directes sur des entreprises de plus petite taille. Et par ailleurs, comme ça ne vous a pas échappé, en fait, l'économie est devenue la variable d'ajustement de ce budget. Donc ça veut dire qu'en fait, dans son ensemble, ce sont tous les acteurs économiques qui sont mis à contribution. Et c'est grave, pourquoi ? Parce que les acteurs économiques, souvent on a l'impression qu'il y a les Français d'un côté, les entreprises de l'autre, alors que tout notre modèle social français, il est financé par quoi ? Il est financé par le travail. Et le travail, c'est quoi ? Ce sont les entreprises et ce sont donc les patrons et les salariés ensemble qui finance en fait le modèle social français. Donc on tape sans arrêt sur les acteurs économiques qui sont ceux qui contribuent au financement du modèle social. Donc on fait exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire.
Autre annonce ce week-end, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, va être maintenue. Ça rapporte 1,3 milliard d'euros à l'État et il vous avait promis que ça serait levé.
Suppression, absolument. Alors là encore, des renoncements, bon, on va dire qu'on est habitué malheureusement, la parole politique est vraiment démonétisée aujourd'hui. Si vous voulez, ce qui est grave, bon, la CVAE, un impôt de production, on a le double des impôts de production par rapport aux voisins, nos pays limitrophes. Donc tout ça grève notre compétitivité et empêche l'économie de se développer. Une fois encore, pour financer notre modèle social, on devrait au contraire prendre des mesures qui permettent la croissance des entreprises, pas qui freinent l'ensemble de la création de richesses.
Dans le même temps, Virginie Calmel, j'entends bien depuis plusieurs mois les patrons, et effectivement, quand on voit ces chiffres, c'est vous qui allez quand même beaucoup mettre au pot. Mais dans le même temps, lorsque j'ai reçu la semaine dernière le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, il était lui-même surpris de voir que dans les chiffres et dans les rapports sur l'année qui vient de s'écouler, bah finalement, les entreprises vont pas si mal, la croissance va pas si mal, vous vous plaignez beaucoup, mais dans les faits, vous continuez à tenir le coup.
Alors c'est vrai que globalement, les entreprises sont résilientes, et je dirais que ça va avec le métier de chef d'entreprise, de s'adapter, d'être positif, de continuer à faire avancer la locomotive économique, mais quand j'entends Monsieur Villeroy de Galhau, il se félicitait d'une croissance à 0,9%. Oui. Alors évidemment, faire mieux que des prévisions catastrophiques. Certes, on peut s'en réjouir, mais on est les moins bons élèves de la classe. Donc au bout d'un moment, on ne peut pas sans arrêt se gargariser de faire simplement 0,9% de croissance, alors qu'on sait très bien que pour que notre pays, que les comptes publics soient sains et pour que notre pays s'en sorte et que notre modèle social reste financé, il faut évidemment beaucoup plus de croissance des entreprises.
Et vous parliez d'ailleurs de ce chiffre, 0,9%. François Villeroy de Galhau précisait également que s'il n'y avait pas eu cette instabilité politique, on aurait probablement eu 1,1% de croissance, on serait passé au-dessus de la barre des 1%. Virginie Calmels, restez avec nous. Il y a Jérôme qui est infirmier dans le Gard et qui voulait lui aussi réagir à ces ultimes tractations du gouvernement. Bonjour Jérôme, on vous écoute.
Oui, bonjour. En fait, j'ai entendu un petit peu ce que l'intervenant précédent là disait et j'ai pas utilisé les mêmes mots lors de mon intervention écrite. Mmh. Mais en France, on trouve qu'un seul moyen, c'est taper sur le tissu social et enfin sur le tissu économique français. Mmh. Mmh. Et on a un gouvernement qui n'arrive pas à faire d'économie. Mmh. Ils n'arrivent pas à réduire leurs dépenses. Le seul moyen pour mettre un budget à l'équilibre, c'est toujours de piquer dans la poche de ceux qui travaillent, toujours piquer sur les sociétés. Ben voilà, c'est toujours pareil.
Vous avez l'impression que vous, Jérôme, alors vous n'êtes pas forcément patron d'une entreprise, mais vous êtes au fond votre propre patron, puisque vous êtes, je crois, infirmier libéral. Vous avez quand même l'impression que c'est ceux qui bossent qui vont devoir payer la facture, c'est ça ?
Mais c'est toujours ça. C'est toujours ça. C'est toujours ceux qui bossent. Et c'est toujours les sociétés qui créent de la richesse pour la France sur qui on tape.
Vous en attendez encore quelque chose de l'État ? C'est vraiment la question qu'on se pose désormais. Et on a un peu l'impression que les patrons eux-mêmes, et c'est d'ailleurs peut-être ce paradoxe, c'est que vous vous plaignez beaucoup, mais au fond, vous avez appris à faire sans l'État. Est-ce que c'est votre cas aussi, Jérôme ?
Ah mais oui, nous on ne tient plus compte de ce que l'État peut nous apporter. Quoi. Mmh. Moi, j'ai droit, honnêtement, je travaille et j'ai droit à rien. Et je ne me plains pas de ce côté-là. Mmh. Ce qui me pose problème, c'est ce que l'État fait de l'argent que je lui donne. Mmh.
Voilà.
Ça me pose problème. Et sans cesse, ils nous demandent de plus. Nous, l'année dernière, on a la CFE qui a augmenté.
Ouais.
C'est la taxe foncière des entreprises. Alors, en sachant que moi, la taxe foncière des entreprises, c'est mon domicile. Donc, je paye déjà ma taxe foncière normale.
Ouais.
Et en plus, je paye une deuxième taxe sur le même logement. Plus que c'est ma maison.
Et on se retrouvait avec parfois certains, et vous avez été nombreux à témoigner, qui disaient que vous deviez payer ça, alors que parfois même, vous l'aviez déjà payé une première fois, mais c'est devenu un embryamnio,
Embrouillamini ?
Oui, embrouillamini, je crois que c'est le mot que je cherchais. J'ai mélangé, c'est ça, l'embrouillio et l'embrouillamini. Merci beaucoup Jérôme pour votre témoignage. Virginie Calmels, on sourit, mais la réalité c'est qu'un certain nombre de patrons, y compris membres de votre association de patrons, Croissance Plus, vous disent qu'ils envisagent soit de ne plus investir en France, soit carrément de partir?
Oui, absolument. Alors, on a un baromètre, vous voyez, qu'on fait régulièrement chaque trimestre au sein des adhérents de Croissance Plus, donc environ 500 entrepreneurs. Ce qui ressort très, très majoritairement, c'est que vous avez 96% des patrons qui disent qu'ils sont déjà défavorables au PLFSS qui a été voté. Ce renoncement à la réforme des retraites est très mal perçu. Pourquoi? Parce que nous, dans nos entreprises, nous passons, notre interlocuteur, là, Jérôme vient de le dire très bien, nous passons notre temps à arbitrer et il faut faire des baisses de dépenses. Et on sait que c'est ça aussi la clé. C'est pas sans arrêt d'aller prendre dans la poche de ceux qui créent de la valeur. Donc il faut mieux gérer l'argent public et faire des dépenses. Et ce qui est dramatique, c'est qu'on a bien vu que pour du marchandage politique, en voulant lâcher au PS, moi je ne comprends pas que de revenir sur la réforme des retraites, qui était quand même la potion la plus amère, je ne comprends même pas comment ils se font à ce point-là harakiri, ça n'a pas été négocié comme un solde de tout compte. C'est-à-dire de dire au PS,
on fait ça,
ce qui est déjà énormissime, puisque, Madame Borne a avalé son chapeau et c'est elle-même qui a dit, alors qu'elle a porté cette réforme, qu'il fallait peut-être la stopper. C'est-à-dire que la parole politique n'a plus aucune valeur. Ils ont tout lâché au PS et ça ne suffit pas. Et donc, on est rentré dans une course à l'échalote qui fait que finalement, la CVAE est supprimée, ce qui est une honte absolue par rapport, une fois encore, à ceux qui créent de la richesse et qui ont besoin au contraire qu'on les laisse grandir, qu'on les laisse bosser. Et derrière, on continue. Et c'est le PS qui fait la pluie et le beau temps pour finalement aboutir à un budget qui ne va faire que des mécontents. Pas, une fois encore, que le monde économique, que les patrons. Parce que c'est la même chose. Les Français ont besoin d'un modèle social qui soit financé. Et c'est ceux qui bossent qui le financent.
Merci Virginie Calmels d'être venue dans ce studio pour réagir. Donc vous êtes vous-même chef d'entreprise et présidente de Croissance Plus, qui représente les patrons. Merci aussi à Jérôme de son intervention. Il est 7h49. Vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Dans un instant, comme tous les lundis, la voix de droite, Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
Louis, le texte sur la fin de vie est de retour au Sénat. C'est un projet de loi qui divise énormément. Pour vous, Louis, le droit à mourir, c'est une question de liberté.
Bien évidemment, si un individu ne peut pas choisir sa propre mort, c'est qu'il n'est pas vraiment libre.
Et votre liberté jusque-là, donc vous l'exprimez dans un instant sur RMC 7h50.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de droite, Louis Sarkozy. Mais d'abord le bonus, Mathieu, avec des nouvelles de la série Harry Potter.
Et ça, vous reconnaissez, quand même. Hein ? Vous avez sans doute reconnu le thème principal de la saga Harry Potter au cinéma. Cette musique, vous la fredonnez peut-être. Peut-être que vous l'entendez habituellement à travers la chambre de vos enfants. Il va falloir se déshabituer et réapprendre d'autres mélodies. Alors là, vous l'avez aussi, c'est le Roi Lion, bien sûr. C'est Hans Zimmer, le compositeur qui vient d'être choisi pour composer la bande originale de la série Harry Potter, qui reprendra les aventures du petit sorcier anglais. Légende vivante de la musique de film, on lui doit donc le Roi Lion, mais Inception, Interstellar, Dune, Rain Man, Gladiator aussi.
Elle
est belle, hein. Fallait bien un grand nom pour succéder au thème musical qui a fait le succès d'Harry Potter. La série, c'est pour 2027. Le tournage a commencé. Tiens, une autre dans Zimmer, juste pour le plaisir. Pirates des Caraïbes.
Oh, c'est pique.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
C'est lundi sur RMC, comme tous les lundis, c'est la voix de droite, 7h52. Bonjour Louis Sarkozy.
Bonjour.
Louis, le Sénat examinera demain le texte sur la fin de vie. Ce projet de loi, voté donc par les députés, prévoit un droit à l'aide à mourir. Alors concrètement, ça signifie que s'il remplit les critères, un malade pourra s'administrer ou se faire administrer une substance létale. Pour vous, c'est une bonne chose, Louis ?
Évidemment, pour moi, choisir sa propre mort, c'est la première des libertés. Il ne s'agit pas ici, en vérité, d'une question médicale, ni même d'une question politique, mais fondamentalement philosophique. À qui appartient notre vie ? À qui appartient sa fin ? Et si ce n'est pas à nous, alors à qui ?
Mais en ouvrant ce droit, est-ce qu'on ne banalise pas la mort, Louis Sarkozy ?
Non, Apolline de Malherbe, on banalise la liberté. Et c'est très différent. La mort est déjà, pardon de vous le dire, la chose la plus banale du monde. Elle nous concerne tous, sans aucune exception. La souffrance aussi, d'ailleurs. Ce qu'on refuse aujourd'hui, c'est que quelqu'un en pleine conscience puisse dire « ça suffit ». Et ça, c'est inacceptable. Permettez-moi de poser la question la plus centrale de ce débat, Apolline. Si un individu n'a pas le droit de décider du moment de sa mort, qu'est-ce que signifie réellement être libre ?
Mais est-ce que l'État ne doit pas, à l'inverse, tenter de préserver la vie coûte que coûte ?
Mais l'État a souvent gaspillé des vies en toute bonne conscience, et c'est parfois jugé parfaitement justifié. L'État peut envoyer des jeunes Français mourir au combat, par exemple. Mais il ne pourrait pas tolérer la mort paisible et consentie d'âmes souffrantes? Non, la liberté ne s'arrête pas là où commence la mort, elle s'arrête là où commence la contrainte. Et ici, la contrainte consisterait à imposer la vie coûte que coûte, même lorsqu'elle n'est plus vécue comme telle, par celui ou celle qui la porte.
Oui, alors ça, c'est votre côté libéral qui revient, Louis.
Bien évidemment, le libéralisme classique repose sur un principe simple. L'individu est souverain sur lui-même. John Stuart Mill l'énonçait déjà parfaitement clairement. Il y a 2 siècles, la seule raison légitime de limiter la liberté d'un individu, c'est d'empêcher qu'il nuise à autrui. Or, décider de sa propre fin de vie dans un cadre médical strict ne nuit à personne. Et l'État ne peut pas, au nom de ce principe, empêcher un individu de se nuire à lui-même. Dès lors, ce droit devrait lui revenir.
Oui, sauf que, attention, est-ce que la mort nous appartient à nous totalement? Est-ce qu'on en est d'ailleurs tout à fait conscient? Est-ce que l'État ne doit pas protéger ceux qui sont les plus fragiles, les plus vulnérables?
Protéger, oui. Confisquer, non. Mandater, non. Obliger, non plus. Le rôle de l'État, ce n'est pas de décider à la place des individus ce qui donne ou non un sens à leur existence. C'est de garantir que leur choix soit libre, que leur choix soit éclairé et protégé de toute pression externe. Or, que dit ce texte? Mais il dit précisément cela. On nous présente un épouvantail, celui de personnes âgées, isolées, poussées vers la mort par économie ou par abandon. C'est une peur légitime. Mais la réponse à cette peur, ce n'est pas l'interdiction, c'est l'encadrement strict, c'est le renforcement massif des soins palliatifs, c'est la garantie du consentement.
Et la clause de conscience des médecins?
Ah, alors là, elle est indispensable. La liberté ne se divise pas. Liberté du patient de demander, liberté du médecin de refuser. C'est précisément cela, une société libérale adulte. Des droits qui se répondent, pas des droits qui s'écrasent.
Pas des droits qui s'écrasent. Merci beaucoup, Louis Sarkozy, la voix de droite sur RMC. À votre place demain, comme chaque mardi, ce sera la voix de gauche. Ce sera avec Cécile Duflo. Rendez-vous donc à 7h50 tous les jours. Dans un instant, le journal de 8h et le bilan très lourd en Espagne. On l'apprend à l'instant. 39 morts après cet accident de train en Espagne hier soir. Nous serons en direct de Madrid dès le début du journal. Du côté de la météo, très pluvieux sur la moitié ouest et en Corse. Et attention aux vigilances du côté de la Méditerranée. Et puis juste après le journal L'Économie, ce matin c'est avec Pierre Rondeau. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Les Français n'achètent plus de roues.
Oui, une baisse de 14% en un an et ça continue depuis maintenant 3-4 ans.
Il est 7h56, on se retrouve dans un instant sur RMC et RMC Story.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
7h59 sur RMC, dans une poignée de secondes, il sera 8h et c'est l'heure du journal.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Ce drame en Espagne où le bilan s'alourdit ce matin à 39 morts dans l'accident de train survenu hier soir en Andalousie. C'est un train qui a déraillé et qui en a percuté un autre. C'est à partir d'aujourd'hui que les futurs bacheliers doivent formuler leurs vœux d'orientation sur Parcoursup. Et la période est tellement stressante que chaque année, le recours à des coachs privés est en hausse de 10 à 20%. C'est une information RMC qu'on vous révèle ce matin. Et puis on va retourner dans ce journal au Maroc au lendemain de la victoire du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations, mais alors dans la confusion la plus totale.
Le bilan de l'accident de train s'alourdit à 39 morts ce matin en
Espagne.
Oui,
dans ce qui est la pire catastrophe ferroviaire depuis le drame, souvenez-vous, de Saint-Jacques-de-Compostelle en 2013. Pierre Chaperon, vous êtes en Espagne en direct ce matin pour RMC. C'est donc un train parti de Malaga qui a déraillé dans la soirée et qui en a percuté un autre pour des raisons encore inconnues.
Oui, un accident extrêmement étrange. Ce sont les mots du ministre des Transports en Espagne, Oscar Puente, qui, lors d'une conférence de presse dans la nuit, a indiqué que toute explication à ce drame ne serait à ce stade que pure spéculation. Est-ce un problème de matériel ou bien de chemin de fer? Beaucoup d'interrogations du côté des experts également. Le train qui faisait la liaison entre Malaga et Madrid et dont les derniers wagons ont déraillé sur une ligne droite et percuté un convoi qui venait dans le sens inverse avait moins de 4 ans d'ancienneté. La ligne de chemin de fer avait été rénové en mai dernier. Les survivants de ce drame parlent d'un gros coup de frein, une sorte de tremblement de terre et puis le noir total, une scène de chaos digne des films d'horreur, un cauchemar, des passagers qui tentent de sortir des 2 trains engagés dans cette collision. Une enquête a été ouverte et elle devrait durer plusieurs semaines alors que les premiers rescapés sont arrivés dans la nuit par autobus à Madrid.
Et le bilan est encore provisoire, hein, puisqu'il y a, selon le dernier bilan, 24 blessés dans un état grave, donc ce matin en Andalousie, là où est survenu ce drame ferroviaire hier soir. Je vous signale qu'il y aura une réunion des dirigeants européens dans la semaine, sans doute jeudi. On l'a appris hier soir pour coordonner la riposte face aux menaces de surtaxes douanières brandies durant le week-end par Donald Trump, qui répète, hein, vous savez, sa volonté de s'emparer du Groenland et en veut aux pays, dont la France, ayant envoyé des contingents militaires en fin de semaine dernière. C'est en Conseil des ministres, aujourd'hui, que le gouvernement va décider s'il fait passer le budget de l'État, soit par 49.3 finalement, soit par ordonnance, qui serait une grande première. Thomas Becker du service politique à RMC en direct ce matin. Le gouvernement va prendre sa décision. Il a pris le soin en attendant de faire une ultime concession aux socialistes pour s'éviter une censure.
Oui, tout à fait. Le Premier ministre a fini par donner le point aux socialistes sur la surtaxe des grandes entreprises. Elle devait être exceptionnelle. Les 300 plus grands groupes français contribueront finalement en 2026 à hauteur de 8 milliards d'euros, comme en 2025. Une façon de financer les concessions sur le volet dépenses, plusieurs milliards d'euros pour préserver la prime d'activité, annuler le gel du barème de l'impôt sur le revenu ou encore généraliser les repas à 1 euro pour les étudiants. Des demandes, là encore, du PS. En abandonnant un vote sur le budget, Sébastien Lecornu devait s'assurer la non-censure des socialistes. Réponse de Boris Vallaud, patron des députés PS, il y a quelques minutes. Compte tenu des avancées, nous pouvons envisager la non-censure. Sébastien Lecornu doit maintenant décider, avant le Conseil des ministres cet après-midi, s'il utilise les ordonnances ou le 49.3. Un indice, les socialistes ne veulent pas entendre parler de la première option. Avec le feu vert du PS, donc, le Premier ministre devrait revenir sur son engagement et utiliser le 49.3 pour enfin adopter le budget 2026.
Réponse donc dans la journée. Et alors, c'est une période de stress qui commence ce matin pour de nombreux parents. Leurs enfants aussi, puisqu'ils doivent à partir d'aujourd'hui formuler leurs vœux sur Parcoursup. Chacun connaît cette plateforme d'accès à l'enseignement supérieur. Il y a jusqu'au 12 mars pour le faire. Mais c'est une telle période de stress que des familles font carrément appel à des coachs privés pour les aider dans leur orientation. Louise Salé, vous avez enquêté pour RMC en direct ce matin. Vous nous révélez ce chiffre des inscriptions, donc en hausse chaque année de 10 à 20%.
Oui, grâce à une publicité bien ciblée, hein, les offres pullulent en ce moment sur les réseaux sociaux, dans les salons de l'orientation. Ces coachs proposent des entretiens souvent en visio aux alentours de 150 euros. Dans les formules les plus chères, près de 800 euros, le coach prend le temps de connaître l'élève avec des tests pour cerner ses envies, analyser son niveau scolaire, construire de A à Z son projet d'orientation. L'objectif, définir une liste de vœux qui lui correspondent sur Parcoursup et pour lesquels il a des chances d'être pris. L'orientation est un sujet de stress pour les lycéens qui se sentent souvent démunis. Les profs ne sont pas toujours renseignés sur les filières, faute de formation sur le sujet. Dans les lycées, il y a peu de psychologues scolaires chargés de l'orientation, un conseiller seulement pour plus de 1000 élèves, ce que déplore la sociologue Anne-Claudine Oller.
Si l'institution se dit qu'il faut accompagner individuellement chaque élève de première et terminale, qu'elle crée un corps de conseillers d'orientation suffisamment conséquent pour pouvoir accompagner tous les élèves de terminale et de première 8 heures par an.
Et plusieurs rapports de la Cour des comptes du Sénat pointent ce manque d'accompagnement, une faille dans laquelle s'engouffrent de plus en plus de prestataires privés. Les sénateurs dénoncent ce système qui, je cite, « aggrave les inégalités sociales entre élèves ».
C'était le choix de la rédaction signée Louise Salé ce matin sur RMC. Pas d'école et pas de transport scolaire ce matin dans le département de l'Aude. Un des 5 à être en vigilance orange, hein, Géraldine vient de le dire, pour les inondations. Il y pleut énormément, on n'avait pas vu ça depuis 2022, depuis ce week-end dans ce département. À tel point que dans la soirée, le préfet de l'Aude a carrément ordonné l'évacuation de 2 quartiers de Narbonne où on redoute la crue sur place d'un cours d'eau. Tiens, Baptiste habite un de ces quartiers.
À 20h30 hier, nous avons reçu un message de la préfecture concernant de potentielles crues. Et donc, si on avait un étage dans le quartier, de se réfugier à l'étage, mais sinon d'aller au centre de secours, au centre d'accueil. C'est compliqué, il n'y a pas de transport en commun. L'agglomération ne met pas à disposition les bus. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui passe avec une voiture du Citybus pour dire aux habitants de ne pas attendre aux abribus. Je viens travailler ici tous les matins et je ne l'ai jamais vu comme ça. C'est vraiment impressionnant.
Et alors, dans les 5 départements en vigilance orange, le risque d'avalanche est de 4 sur une échelle de 5 dans les montagnes de Corse. Pareil pour les Pyrénées-Orientales et dans les Alpes aussi pour le massif du Kera. C'est aujourd'hui que les joueurs du Sénégal sont attendus à Dakar pour fêter leur victoire hier soir à la Coupe d'Afrique des Nations, la deuxième de leur histoire, remportée 1-0 en prolongation contre le Maroc, le pays hôte. Le Maroc avait raté un pénalty en toute fin de match. Aurélien Tiercin, vous êtes en direct de Rabat pour RMC de jouer cette finale. C'est ce pénalty qui a mis le feu aux poudres, on peut le dire.
Oui. Absolument, parce que c'est une décision arbitrale contestée, en tout cas vivement par les Sénégalais, juste après s'être vu refuser un but lui aussi sur une action litigieuse par l'arbitre congolais du match. Et les joueurs sénégalais, sur décision du sélectionneur, sont rentrés au vestiaire pendant 10-15 minutes. Une situation absolument jamais vue, je n'ai jamais vu ça dans une compétition de ce niveau, et ça a enflammé le stade dans le mauvais sens du terme. Les journalistes commençaient à se taper en tribune de presse entre Sénégalais et Marocains. Les supporters sénégalais ont arraché des sièges, sont descendus sur la pelouse. Le match interrompu, évidemment. Il a fallu 4-5 rangées de personnel de sécurité pour contenir tout le monde dans le chaos le plus total. On ne savait plus si le match allait reprendre. Finalement, le légendaire Sadio Mané, le capitaine du Sénégal, a fini par convaincre ses coéquipiers de revenir sur la pelouse, et il a bien fait. Il a prié avant le pénalty de Brahim Diaz, pénalty manqué, but en prolongation de Pape Gueye, un missile dans la lucarne. Le match est donc encore plus entré dans la légende. Heureusement, pas de débordement gravissime à l'extérieur du stade ni à l'intérieur, mais la tension a continué dans l'après-match, puisqu'en conférence de presse, Pape Thiaw, le sélectionneur champion d'Afrique, n'a même pas pu parler sous pression de journalistes marocains entrés en masse dans la salle pour contester l'attitude de Pape Thiaw. Finalement, donc, pas de conférence de presse. Du côté de Walid Regragui, le coach marocain, lui, a parlé, et il a parlé notamment d'une triste image donnée du football africain.
Voilà, Aurélien Tiercin en direct pour cette fin de la Coupe d'Afrique des Nations. Je vous signale quand même qu'il y a eu quelques tensions aussi à Paris entre forces de l'ordre et supporters sénégalais dans le secteur des Champs-Élysées, où les rassemblements de supporters étaient pourtant interdits.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h08 et vous êtes bien sur RMC. C'est l'heure de parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Et ce matin, c'est avec Pierre Rondeau. Bonjour Pierre. Pierre, les ventes de deux roues, moto et scooter en chute libre. Et c'est vrai d'ailleurs pour le neuf comme pour l'occasion. Qu'est-ce qui se passe?
Alors oui, un chute libre, c'est le moins que l'on puisse dire. En 2025, les ventes ont baissé de 14% par rapport à 2024. En 2024, elles chutaient de 9%. En 2023, la baisse était de 2%. C'est simple, hein, depuis la fin du Covid, les Français ont délaissé les deux roues motorisées. Ils n'ont plus la cote, qu'il s'agisse du marché du neuf comme du marché de l'occasion.
Comment ça s'explique?
Alors premièrement, et ça vous paraîtra évident, il y a une problématique de pouvoir d'achat. On achète de moins en moins parce qu'on a de moins en moins les moyens. Les salaires, selon l'INSEE, n'ont pas augmenté suffisamment et les ménages ont de moins en moins de possibilités d'achat. Sans compter l'augmentation du prix des assurances de 10% pour les nouveaux conducteurs, ceux qui précisément achètent de nouveaux véhicules, contre 3% pour les conducteurs expérimentés. Rajoutez à ça le stationnement payant appliqué dans les grandes villes comme Paris, Marseille ou Bordeaux, et le contrôle technique devenu obligatoire pour les deux roues, vous voilà avec un secteur en très grande difficulté.
Il n'y a pas de motif d'espoir pour les fabricants, des perspectives pour l'avenir?
Alors on peut effectivement voir le verre à moitié plein, on peut considérer que c'est pas forcément une chute, mais un virage. Les usagers de la route et les motards évoluent, changent de braquet. Par exemple, l'électrique baisse, mais dans des proportions plus faibles, de seulement 5%. Et on observe même une augmentation des ventes pour un secteur très spécifique, les petites cylindrées électriques, les scooters électriques d'occasion. On change de mode de mobilité, on change de type de véhicule. Regardez par exemple la présence de plus en plus importante de trottinettes ou vélos électriques, voire de voitures sans permis dans les villes. En 5 ans, les ventes des voitures sans permis ont été multipliées par 2. Les jeunes et les adolescents qui jusqu'ici achetaient des scooters et des petites motos privilégient dorénavant ce type de véhicule, plus sûr et sans contrainte, et cela rassure les parents. On assiste donc à une modification du marché, pas vraiment à une disparition, et le marché des deux roues devra donc être capable de se réinventer pour passer cette transition.
Merci Pierre Rondeau, et d'ailleurs vous n'hésitez pas, si vous avez fait ce choix d'ailleurs, de renoncer aux deux roues, appelez-nous au 3216. Il est 8h10 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, Arnaud Demanche, comme chaque matin, vient nous rejoindre. À 8h30, l'invité du face-à-face, c'est le jour J, c'est la ministre du budget, Amélie de Montchalin, à quelques heures, donc peut-être du dénouement sur le budget, elle nous le dira. Ça se passe sur RMC et BFM TV à 8h30. Juste après, il y aura aussi Nicolas Canteloup, comme chaque matin, on a rendez-vous avec ses imitations à 8h50 pour Face à Canteloup. Il est 8h11 sur RMC, restez bien avec nous, on se retrouve dans un instant.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Tous les 8h13, Arnaud Demanche qui nous rejoint, salut Arnaud.
Bonjour les amis, allez, pour démarrer la journée,
un sourire, Apolline. Car on va parler du député Rassemblement National, Mathias Renaud. On s'est foutu de sa gueule partout, mais pas encore ici. Et c'était pas très juste. Il était temps de réparer. Parce qu'il a voulu supprimer les subventions du festival Les Transmusicales de Rennes. Il croyait que c'était un festival de promotion des transgenres dans la musique. Donc ça aurait été quoi? Un festival avec que Raïm Redcar, anciennement Christine and the Queens, qui s'appellera Frigidaire Tournebeuf l'année prochaine, on ne sait pas. Mais bon, Mathias Renaud, il faut faire attention. Transavia n'est pas une compagnie aérienne avec des avions pilotés par des drag queens.
Salut les loulous, ici Lolita Banana, votre pilote assisté du commandant Zouzou Barbichou. La température en cabine est très chaude. Le décollage est immédiat, même si c'est pas facile de piloter avec des talons et des ongles de 20 cm. Attachez vos ceintures, c'est parti pour toute la nage.
Et le pauvre Mathias Renaud.
Faites-moi descendre !
Cuisse de poulet ou queue de lotte ?
Je veux sortir d'ici !
Donc, les pays transfrontaliers, c'est pareil. Il n'y a pas de transgenre à toutes nos frontières, voilà, à part en Allemagne, avec des femmes de 95 kilos de muscles et une moustache. Et si tu prends un transsibérien, c'est pas Vladimir Poutine sous œstrogène qui te fait l'amour. Sa vie doit être un enfer. Le pauvre Mathias Renaud, s'il prend tout au pied de la lettre, comme ça, très premier degré, il a pris des billets pour le festival des vieilles charrues.
Mais il y a plein de musiciens! C'est nul, où sont les agriculteurs? Moi, je voulais voir des vieilles charrues, le printemps de Bourges. Que des ploucs! Pas un Bourges! Il y avait les négresses vertes, une arnaque totale. C'est des hommes et ils sont même pas verts. Et est-ce que le président a pas mieux à faire que du camembert? Président.
Président. Dans un délire.
Et à France Travail, il n'y a même pas de travail. Les villes juives, pourquoi ils ont une ville? C'est du séparatisme. Bref, c'est toujours rassurant
de voir qu'on expédie à l'Assemblée nationale l'élite intellectuelle de la nation qui bosse ses sujets avant de déposer des amendements. Courage, Mathias. À demain, Mathias.
La France a envoyé des soldats au Groenland pour un exercice avec plusieurs pays européens, suscitant la fureur de Donald Trump.
Oui, c'est fou. Hein. Les États-Unis et le Danemark se disputent le Groenland alors qu'il y a 6 mois, tout le monde s'en foutait. Ça me rappelle un peu quand le gouvernement et les insoumis se sont mis à se battre pour avoir le PS.
Ah ouais.
Voilà. Le Groenland, c'est le Olivier Faure du monde occidental. Le Groenland ne veut pas rejoindre les États-Unis. Mais alors, à leur décharge, Trump les a mal dragués quand même. C'est un mauvais dragueur, Trump, on va pas se mentir. Je dis pas ça pour critiquer sa femme, elle est très bien, sa femme, même si la mienne est mieux. Et qu'en plus, elle est moins chère. Mais pour conquérir le Groenland, au lieu d'aller les baratiner en leur disant « J'adore votre culture, vos paysages, votre singularité », il leur a juste dit « J'ai besoin de votre pays pour m'en servir comme bouclier antimissile ». Alors vraiment, c'est comme draguer une meuf en lui disant « J'ai besoin de toi pour me soulager 2 fois par semaine et on fera des bébés pour qu'ils peinent aux retraites ». C'est pas glamour. Donc ils vont envahir le Groenland, je sais pas pourquoi, ils vont en faire une annexe d'Hollywood spécialisée dans les téléfilms de Noël. Hollywood. Et du coup, les Français ont envoyé des troupes au Groenland. Alors, j'aime pas dire du mal de mon pays, mais est-ce que les Français sont au courant qu'au Groenland, il y a de la neige? Ils vont faire demi-tour. Jamais un Français va aller bosser alors qu'il y a de la neige. Il y a une semaine, on a tout annulé pour 3 cm. Je pense que les Groenlandais peuvent s'inscrire à Wall Street English. Do you speak English? Yes, Wall Street English. Wall Street English.
Le Sénégal a gagné la Coupe d'Afrique des Nations.
Oui, les Lions de la Teranga ont battu les Lions de l'Atlas. C'est classe hein, comme surnom d'équipe, les deux, parce que chez nous, c'est juste les Bleus, parce que le t-shirt est bleu. Bon, ça fait moins chic. Les Allemands, eux, ils se sont encore moins pris la tête. Le surnom de l'équipe nationale, c'est l'équipe nationale.
Ah, c'est bien.
La Nationalmannschaft. Il y a aussi la Terre de Feu, ça c'est l'Azerbaïdjan, ou la Lune aux Étoiles, ça c'est joli, c'est la Turquie.
Ah, c'est beau ça.
Ouais, alors ça fait un peu position du Kama Sutra, la Lune aux Étoiles, mais c'est la Turquie. Et c'est d'ailleurs l'occasion du jeu du lundi. Est-ce le surnom d'une équipe de foot ou
Oui,
sexuelle.
Oh non, attention. Oh non, pas une position sexuelle.
Les deux. Non, L'Amazone.
Position sexuelle.
Le bateau pirate.
Position sexuelle.
Non, c'est la Grèce. Le bateau ivre. Position sexuelle. L'éléphant national.
Non, c'est pas une position sexuelle.
C'est la Guinée. Le bouclier du roi.
Position sexuelle.
Non, c'est le Swaziland. C'est les filles du Swaziland. La porte du paradis.
Oh bah ça, position sexuelle.
Ouais. Le Yémen heureux.
Oh bah non.
Non, ça c'est une équipe quand même. Quand même. La reine aux champignons. Alors ça, il y avait
une pizza.
C'est une pizza. Bonne réponse. Le lotus inversé.
Une position sexuelle.
La sérénissime.
Une pizza.
Non, c'est Malte. C'est l'équipe de Malte. L'aigle fringant.
C'est une équipe.
Okay.
Et enfin, le guerrier de fer. Une équipe.
D'accord.
Et l'hélico Béliard.
C'est une équipe. Mais je suis pas tout seul.
Allez, bravo Mathieu. À demain.
C'était Arnaud de Manche.
Voilà, on sait plus ce que c'est au final.
Dans un instant, mon invité sur RMC et BFM TV, ce sera la budget, Amélie de Montchalin, puisque c'est le jour J, effectivement, pour le budget. On s'oriente vraisemblablement vers un 49-3 après d'ultimes cadeaux qui ont été faits au Parti Socialiste. Les messages, Mathieu, d'un certain nombre d'auditeurs qui réagissent sur le Groenland et le bras de fer qui s'installe clairement avec Donald Trump.
Question qu'on a posée très tôt ce matin, faut-il aller au clash, faut-il aller au bras de fer avec Donald Trump? Et vous répondez vraisemblablement oui, il faut être ferme, nous dit Eric. Il faut être ferme avec Trump. Les États-Unis ont besoin de l'Europe plus que l'Europe a besoin d'elle. L'Europe, c'est 20% du PIB des États-Unis. Trump n'aura pas le choix que de faire marche arrière. Un pays puissant fait ce qu'il veut et un pays faible fait ce qu'il peut, nous dit Julien. Et l'Union européenne est composée de pays faibles qui, au lieu de se coaliser en un grand espace, une grande puissance économique et militaire, vivent pays par pays en jouant chacun leurs propres intérêts. Et c'est ce qui nous rend faibles. La seule issue, c'est l'Europe fédérale, nous dit Julien. Il appelle à plus d'Europe ce matin sur le WhatsApp RMC 0612 424 424. David nous dit, après s'être approprié le Groenland, si Trump décidait d'annexer la Guyane, les Antilles ou autres, on devrait le laisser faire aussi. Voilà ce que demande David ce matin sur le WhatsApp RMC. Et vous avez été nombreux à réagir, à la fois inquiets et profondément préoccupés du sort de l'Europe dans ce débat sur le Groenland voulu par les États-Unis.
Et j'interroge dans un instant donc Amélie de Montchalin, la ministre du budget, non seulement sur le budget, mais aussi sur ce point et les conséquences que ça pourrait avoir sur l'économie française, ces 10% de droits de douane supplémentaires dont menace Donald Trump. Il est 8h21, on se retrouve dans un instant sur RMC et BFM TV.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Il est 8h28 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Amélie de Montchalin.
Bonjour.
Merci d'être mon invitée ce matin. Vous êtes la ministre du budget et j'ai envie de dire c'est le moment, le jour J, jour décisif pour le budget puisqu'il y aura un conseil des ministres tout à l'heure et la décision du moyen, on a bien compris qu'il n'y aurait pas de vote, mais si c'est 49-3 ou ordonnance et ultime tractation, on a encore vu hier un dernier peut-être cadeau que vous avez fait au Parti Socialiste, est-ce d'ailleurs le dernier, on verra sur la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprise. Je voudrais d'abord quand même vous poser une question parce qu'on l'a appris à l'instant. Donald Trump qui continue dans ses menaces, qui a encore écrit au gouvernement danois, laissant entendre, je cite, qu'il n'était pas tenu de penser en termes de paix. Il a hier menacé de 10% de hausse de droits de douane pour 8 pays européens, dont la France. En fait, on est en train de vous voir construire un budget pour une économie dont on sent qu'à tout moment, dans cette instabilité, elle pourrait basculer.
Avant l'économie, c'est le monde qui peut basculer. Nous avons construit depuis 1945 un cadre mondial qui a eu quelques, évidemment, entailles, mais un monde où le premier principe s'appelle la souveraineté des nations. Il n'y a pas eu et d'ailleurs, c'était bien la première fois entre la Russie et l'Ukraine, mais il n'y avait plus d'invasion. Les pays arrêtaient de passer la frontière avec leurs chars et leurs armées pour dire « ça, ça m'appartient alors que c'est chez toi ». Et donc, le sujet là qui se joue, il y a évidemment des enjeux économiques et je vais y revenir. Mais le premier sujet, c'est le Groenland est un territoire danois, du Danemark. Tout comme la Nouvelle-Calédonie est un territoire français, tout comme, vous voyez, nos Outre-mer sont des territoires français, certes éloignés de nos capitales géographiques, mais ce sont des territoires qui ont une appartenance, une souveraineté. Et le message que fait passer l'Europe de manière unanime, et ça c'est très important, de manière unanime, même si certains pays, vous savez, la France et d'autres, ont évidemment répondu aux appels du Danemark pour que nous ayons à leur côté une plus grande surveillance de la sécurité du Groenland vis-à-vis de potentielles attaques extérieures, russes, chinoises et autres, qui inquiètent beaucoup Donald Trump et qui nous inquiètent d'ailleurs beaucoup aussi.
Non mais là on répond, mais est-ce qu'on a les moyens et qu'on
avons
y compris
d'abord
économique
un sujet de souveraineté. Ensuite, économiquement, l'Europe n'est pas faible. Vous savez que pendant des mois, vous vous souvenez, on avait nos histoires de droits de douane, avant le fameux accord, qui d'ailleurs, à certains égards, est un peu suspendu. On va pas faire un accord douanier alors qu'on nous rajoute des droits de douane. Et donc, on a beaucoup d'outils. Des outils d'ailleurs parfois qui avaient été pensés pour plutôt nous protéger contre la Chine, contre des pressions extérieures.
Vous pensez, j'imagine, à l'instrument qu'on appelle anti-coercition, qui pourrait être activé. Il faut l'activer.
Moi, mon métier, vous voyez, actuellement, ma mission, là, c'est de m'occuper du budget français. Et je pense qu'on a besoin d'autant plus d'un budget quand
oui,
on est
j'ai
dans
envie
ce
de dire, il sera caduque, ce budget, en quelque sorte, si on se retrouve avec, effectivement, tout d'un coup, 10% de droits de douane supplémentaires. Ça change beaucoup de choses.
Ça change beaucoup de choses pour nous, pour les Allemands, pour toute l'Europe. Et donc, vous voyez bien que le sujet, c'est que ça ne doit pas arriver. Nous devons nous mettre dans une position où, par la résistance, par notre force, par notre crédibilité, nous empêchons cette espèce de guerre commerciale de s'approfondir. Mais vous voyez pourquoi il faut un budget. Et ça fait peut-être la transition.
Non, attendez, avant la transition,
Il y a un élément clé, ça s'appelle le budget des armées. La France, dans ce monde-là, alors que nous sommes vulnérables et attaqués en tant qu'Européens, comme jamais, par l'Ukraine et par cette situation.
On va revenir sur ce budget.
Nous avons besoin
sur ce budget
et
sur le budget de la défense. Mais, Amélie de Montchalin, je vous repose la question. Un, est-ce qu'il faut prendre au sérieux la menace de Donald Trump?
Nous la prenons très au sérieux.
Vous la prenez très au sérieux.
C'est pour ça que le président de la République et le Premier ministre et l'ensemble du système français à la fois économique, militaire, sécuritaire. Un, on se met aux côtés du Danemark. Deux, s'il y a des menaces russes et chinoises, eh bien, on va les surveiller au Groenland, aux côtés des Danois.
Et si on activait ce que vous appelez
économique, on se défend.
On se défend en activant, s'il le faut, cet instrument donc anti-coercition.
Il y a une palette d'outils. Les Européens doivent décider ensemble. Il y a eu hier une réunion qui a abouti à l'unanimité. C'est très important. Il y a un Conseil européen extraordinaire cette semaine. Il y aura des échanges. Vous savez qu'un certain nombre de dirigeants sont à Davos dans les prochains jours. Donc, la France, l'Europe, l'Allemagne, et d'ailleurs France et Allemagne sur ce sujet, et j'insiste, alors qu'on a été divisés sur d'autres, nous sommes unis. Et ça, c'est très important parce que c'est aussi notre puissance.
Mais ça aura des conséquences économiques parce que non seulement les hausses de douane de tarifs douaniers auraient des conséquences, mais si nous-mêmes nous activons effectivement cet instrument anti-coercition, on peut limiter les importations, rehausser nous-mêmes les tarifs douaniers, ou encore interdire les marchés publics à certaines entreprises des États-Unis.
Tout ça peut se faire.
On peut le faire.
L'année dernière.
Il ne faut pas hésiter à le faire.
Non mais, moi, pas d'hésitation. L'année dernière, si on rembobine le fil, vous savez qu'à un moment donné, on a dû réviser notre prévision de croissance en France, parce qu'on a dit, oulala, les droits de douane arrivent, ça va nous coûter sur la croissance. On était passé de 0,9% de croissance à 0,7% de croissance. En fait, on finit 2025 à 0,9. Mais pourquoi pas? Parce qu'on a des, heureusement, notre continent, notre pays a des ressources. Nous ne sommes pas juste, vous voyez, tétanisés parce que, heureusement, nous avons des perspectives de croissance ailleurs, nous avons des perspectives internes. C'est aussi pour ça qu'on a besoin d'un budget pour redonner de la capacité à tous les acteurs économiques de se projeter en France, en Europe et dans le monde et ne pas être dépendants. Vous savez pourquoi on a peut-être un peu rabâché depuis des années, depuis le fameux discours de la Sorbonne? Qu'on croyait à la souveraineté, à l'autonomie stratégique européenne. Parce que nous devons arrêter d'être dépendants. Dépendants de la croissance américaine, dépendants des décisions extérieures, dépendants au fond de tout ce qui se passe dans le reste du monde, et nous de regarder les trains passer. Nous devons décider pour nous-mêmes, à commencer la France, pour elle-même, d'où les questions de budget.
Amélie de Montchalin, ministre du budget, est-ce que, enfin, d'ici ce soir, ce sera le début de la fin? C'est-à-dire, est-ce qu'enfin, on saura qu'on va avoir un budget, et comment? Ce sera sans doute le 49-3.
Bon, première chose. Si on rembobine il y a une semaine, vous vous souvenez où nous étions?
Oui.
Le débat a été saboté par des acteurs politiques qui, un peu par cynisme, par opportunisme, parfois par incompétence, ont voté toutes sortes de choses très bizarres dans le budget qui l'ont rendu invotable. Deuxième chose, il y a une semaine, honnêtement, c'était le chaos politique. Personne n'était d'accord sur rien, ni sur le quoi, ni sur le comment, ni sur rien. Et troisième élément la semaine dernière, c'est que il y avait, au fond, un sentiment que nous n'y arriverions jamais. Aujourd'hui, vous voyez, on a des débats sur ce qu'il y a dans ce budget qui ressemble, je pense, à un point d'équilibre. Pourquoi c'est un équilibre? Et je veux vraiment vous le dire. Quelques jours, avec le Premier ministre, vous savez, tout le monde nous dit, on fait des tractations de couloirs, ça se passe loin des yeux. Bon, au fond, on s'est dit deux choses et on l'a dit à tous les acteurs politiques. Puisque tout le monde semble n'être d'accord sur rien, nous, gouvernement, on vous propose la chose suivante. Un, nous allons préférer la stabilité au saut dans l'inconnu. Donc on va garder ce qu'on connaît. La fiscalité des ménages, on ne change rien. La fiscalité des TPE-PME, on ne change rien. La fiscalité des grandes entreprises, en 2026, elles paieront. Et j'en suis désolée parce que je ne souhaitais pas ça. Mais c'est le choix de stabilité. Elles paieront en 2026 comme en 2025, sauf pour les entreprises de taille intermédiaire industrielle.
Sauf qu'en 2025, vous leur aviez dit que c'était temporaire.
Et je suis venue vous le dire. Et est-ce que j'en suis satisfaite? Non. Mais à un moment donné, le choix qui a été fait politique, c'est la stabilité. Pas de hausse d'impôts pour les ménages, pas de hausse de charges pour les entreprises, pas de changement fiscal.
Pas de baisse pour les grandes entreprises.
Et pas de baisse pour les grandes entreprises, c'est vrai. Mais honnêtement, c'était soit le grand n'importe quoi, soit se dire, bon, au fond, on va garder ce qu'on connaît. Et quand on garde ce qu'on connaît, ben, c'est pas l'idéal. J'avoue, mais à un moment donné, il faut avancer. Deuxième chose qu'on a dit aux partis politiques, pour les Français, il y a des urgences. Trois à minima, je vais en rajouter une quatrième. Un, le travail doit payer. C'est pour ça que cette réforme de la prime d'activité, on la soutient. Elle coûte cher, mais elle est décisive. Quand vous travaillez un peu plus que le SMIC, vous devez gagner plus à la fin du mois. Les aides sociales ne peuvent pas baisser. Deuxième chose, deuxième urgence, c'est la jeunesse. Nous avons fait un budget de sécurité sociale qui protège nos aînés, qui protège nos retraités, qui protège la santé.
Qui faisait le choix des plus âgés.
Ce budget de l'État et des collectivités, il doit penser à l'avenir. Et donc, on doit protéger la jeunesse, les étudiants, les boursiers, les universités, la recherche. Et on assume. Parce que là aussi, c'est l'avenir. Troisième priorité, c'est le logement. Toutes les familles de France. On parle beaucoup de natalité, de démographie. Mais évidemment que c'est difficile d'avoir un enfant de plus quand vous êtes déjà tout serré dans votre appartement et que vous ne pouvez pas déménager, que vous ne trouvez pas de bien à louer, qu'il n'y a rien à vendre nulle part et que les prix sont trop chers. Ces trois priorités-là, on a dit là-dessus, avec tous les partis politiques, les LR, les partis socialistes, les indépendants, tout le monde, ceux qui ont voulu venir à Bercy, donc il manquait les écologistes et les communistes, et je le regrette. Mais ça, on s'est dit, là-dessus, on doit pouvoir faire
vous
du plus et du mieux.
Vous n'aviez pas invité LFI et RN1. Non,
parce que quand on sabote les débats...
Et quand on partiez que c'était des saboteurs, comme
oui,
vous dites.
Mais voyez, quand le RN décide de baisser d'un coup 5 milliards d'euros pour les petites communes de France en disant que c'était formidable pour l'équité du pays, moi, je suis contre, et donc je l'ai dit, et donc on a avancé. Et donc ce budget, c'est ça. Et comment on le finance?
Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce que depuis effectivement 48 heures, les uns et les autres sont au rendez-vous et vous disent « Ok, banco, on y va ».
Au fond, ce qu'ils jouent, là, vous avez parlé 49-3 ordonnances, et je vais vous le dire avec beaucoup de clarté, mais surtout de gravité. Le 49-3, c'est un chemin assez périlleux, puisque s'il ne se passe pas bien, à la fin, vous n'avez ni budget, mais vous n'avez même plus de gouvernement pour reproposer un budget. Et donc, vous n'avez rien. Et donc, vous avez dans le monde que vous venez de décrire, le vide. Et moi, je ne peux pas laisser mon pays s'engager, vous voyez, dans une aventure, en disant, bon, on y va. Donc, ce qui se joue, sinon, c'est les ordonnances. Les ordonnances, c'est un autre système. C'est un système qui vous dit, au moins, vous avez un budget. Peut-être que vous avez plus le gouvernement, mais au moins, les armées ont leur budget. Au moins, ce budget, tel qu'il serait appliqué, ne plairait à personne. Il devrait être modifié, peut-être déjà par un budget rectificatif, mais au moins, vous auriez une base pour que, vous voyez, par rapport à Donald Trump et au reste du monde, on ait une voix crédible. Moi, je vais vous le dire, aujourd'hui, on n'est pas en train de sauver nos postes. Avec le Premier ministre, le sujet, c'est pas de savoir s'il y aura un gouvernement ou pas, c'est de savoir s'il y aura un budget ou pas.
Donc,
ce qu'on veut, c'est sauver le budget. Et donc là, ce qui se joue dans les ultimes tractations, les ultimes échanges, les ultimes coups de fil, c'est au fond, est-ce qu'on a assez de garanties pour prendre plutôt le chemin du fameux 49-3? Si on n'a pas assez de garanties, bah, on prendra le chemin. Vous savez, au fond, moi, si dans quelques jours, je dois quitter Bercy, si je dois dire, voilà, je suis censuré avec le reste du gouvernement, les gens ne veulent plus nous voir, ils veulent autre chose. Moi, j'ai un engagement avec moi-même et que je veux dire devant les Français. Si je dois quitter mon poste, je veux que la France ait un budget. Sinon, c'est la honte et le remords pour moi politique majeur. Parce que ça voudrait dire qu'on a fait tout ça et qu'à la fin, c'est le vide.
Pardonnez-moi,
et
mais je n'ai pas compris.
S'il y a des ordonnances, mais qu'on est censuré, au moins, il y aura un budget.
Donc votre
s'il y a un 49-3 et qu'on est censuré, il y aura même pas de budget.
Mais ça veut dire, Amélie Montchalin, que votre préférencierait à l'ordonnance parce que ça donnerait une stabilité plus grande.
Ce que je dis, c'est que je comprends que les forces politiques préféraient que nous n'ayons pas recours à l'ordonnance. J'ai bien compris ça. Mais je dis que pour que nous prenions le chemin du 49-3, il nous faut des garanties réelles.
Vous estimez que les engagements qu'ils prennent ne sont pas suffisants. Quand ils disent on va vers le mieux, notamment le Parti Socialiste, va vers les bons, on commence à prendre la bonne direction. Ça ne suffit pas. Vous voulez qu'ils disent, on ne censurera pas.
Ce que je vous dis, c'est que comme on ne gère pas un pays, comme on gère une aventure, pour que le Premier ministre dise on va faire le 49-3, il faut que dans les dernières heures, on soit bien sûr qu'à la fin, on aura bien et un budget et un gouvernement. Mais à nouveau, je vous le dis, moi j'ai passé mon week-end.
Non, mais ça veut dire Amine Montchalin, que dans les heures qui viennent, puisque c'est aujourd'hui que ça se joue, Sébastien Lecornu a dit qu'il annoncerait effectivement ordonnance au 49-3 d'ici ce soir. Ça veut dire que vous lancez en quelque sorte un appel ce matin, en disant aux différents partis qui veulent bien vous suivre, il faut s'engager clairement, nous dire que vous ne censurerez pas, sinon on va pas au 49-3. On ne prend pas de risque.
Et je le dis pourquoi? Parce que le sujet, c'est pas nos postes. C'est d'avoir un budget. Moi, j'ai passé mon week-end, vous voyez, avec des patrons de grandes entreprises, de petites entreprises au téléphone.
Ouais. Vous avez pas dû passer un très bon week-end parce qu'ils sont globalement pas très contents.
Et je leur ai dit, voilà. Moi, je serai plus peut-être votre interlocutrice dans quelques jours. Mais je m'engage devant vous que si nous devons partir, nous ne laissons pas le vide.
Oui, c'est qu'il y a un budget. Si c'est un 49-3 avec engagement de non-sens de la part du Parti Socialiste, de la part de LR, vous avez des craintes, même du côté de LR?
Mais, vous voyez, tous les sujets sont encore ouverts. On a des discussions avec le Sénat. Le Sénat, c'est la chambre de la stabilité. Ils ont été extrêmement aidants, les sénateurs, l'année dernière, en 2025, pour qu'on ait un budget. Mais il faut pareil que, au fond, on ne se laisse pas aller à des coups d'éclat politiques sur certains sujets qui amèneraient potentiellement à de l'instabilité.
Qu'est-ce qu'il pourrait faire encore le Sénat? C'est-à-dire que j'ai l'impression presque que de votre côté, bon, vous espérez, vous imaginez que dans les heures qui viennent, du côté du PS comme de LR, on vous donne les signaux suffisants pour que vous puissiez oser, comme vous dites, le 49-3. J'essaie de traduire ce que vous êtes en train de me dire.
Vous traduisez très bien.
Je crois que c'est bien ce qu'on a compris.
Que, oui, oser dans la politique, voilà. Vaut mieux le faire en ayant un petit parachute, parce que sinon, c'est votre pays que vous emmenez dans le vide.
Donc,
Nous ne prendrons pas ce risque et on préférera, je vous le dis, perdre notre poste.
Vous ne ferez pas 49-3 le risqué. Vous ne ferez le 49-3 qu'en étant exactement sûr, effectivement, qu'on vous soutient. Ok. Mais ensuite, vous évoquez le Sénat. Pardonnez-moi, mais qu'est-ce que le Sénat peut faire? Est-ce que le Sénat pourrait encore bloquer les choses?
Vous voyez, on essaie de trouver un budget pour la nation. On essaie de trouver un budget pour le pays. On essaie de le faire en disant à tous les partis de gouvernement qui ne veulent pas bloquer et qui ne sont pas obsédés par organiser des nouvelles élections, comme le sont la France Insoumise et la Rassemblement National, quel que soit le sujet, il faut une dissolution, une destitution, des élections. Ben, on leur dit, si c'est le budget de la nation, si c'est le budget du pays, ben, ça serait bien quand même qu'on se soit mis d'accord sur au moins à quoi ils ressemblent.
Vous les appelez eux aussi à une forme de ce budget?
En tout cas, une forme d'union nationale pour les Français, notamment sur le budget des collectivités, où on a encore beaucoup de travail à faire dans la journée, pour savoir comment on en fait, au fond, un point de consensus.
Mais est-ce que ça veut dire, Amine Montchalin, que même s'il y a un 49-3 sans risque, j'allais dire, il reste un risque du côté de... Est-ce que le Sénat peut encore faire capoter le budget?
C'est pas une question de risque, c'est une question d'unité, de stabilité, de concorde. Est-ce que ce budget, au fond, on arrive à se dire que, oui, il assure la stabilité, peut-être qu'il ne change pas autant de choses que certains auraient voulu, il résout des urgences des Français, mais il ne reste pas un élément, voyez, d'opposition, de tension. Et donc, sur le budget des collectivités, le Sénat, par exemple, pourrait arriver avec nous tous à se dire que ce qui est là n'est pas forcément ce qui est l'idéal, mais c'est quand même mieux de se mettre d'accord sur quelque chose que de rester dans la confrontation.
Moi, il y a quand même un truc que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment vous arrivez à être en dessous des 5% de déficit. C'est-à-dire que pour moi, j'ai fait tous les calculs, ils sont pas bons.
J'attendais votre question.
Ça marche pas.
Il y a deux choses que je veux vraiment vous garantir. D'abord, il y aura moins de prélèvements obligatoires en 2026 qu'en 2019. Ça, c'est très important parce que 2019, c'est la dernière année où on avait un déficit sous 3%. Et c'est la dernière année où, d'ailleurs, on était avant les grandes crises du Covid, de l'Ukraine, de l'inflation. La deuxième chose que je vais vous dire, c'est oui, il y a plein d'économies dans ce budget. Et j'en voulais même en faire davantage.
Mais vous nous redites ce matin qu'il se sera en dessous des 5%?
D'abord, on sera à 5%. On avait dit 5%
maximum. Vous serez pas en dessous, vous serez à 5.
On avait dit 5 maximum, on est à 5. Là, dans les tableaux, dans les équilibres. Mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui parlent d'économie. Ils viennent souvent vous en parler à votre micro. Moi, je les vois ensuite, pas devant votre micro, je les vois dans l'hémicycle, à l'Assemblée, au Sénat. Ils les votent beaucoup moins, les économies. Ça enthousiasme beaucoup plus les économies quand on en parle que quand on doit les voter. Deuxième chose, c'est on en a fait beaucoup en 2025. On a fait le plus grand effort de réduction de dépenses de fonctionnement de l'État, ce qui a permis aux collectivités et aux dépenses sociales de continuer à augmenter. C'est quand même la réalité. On va continuer. Vous savez, j'ai fait plein d'annonces pendant des mois sur les agences, les opérateurs. Le Premier ministre a aussi fait des agences.
On va réduire de ce point de vue-là?
Agences, opérateurs, il y a 70 mesures que les ministres doivent appliquer. Nous tous, on a tous les ministres, on a une feuille de route. Il y a 70 mesures de suppression, de rationalisation, de fusion. On réduit les dépenses de communication. On réduit les dépenses de commande publique. Donc oui, je peux vous dire, vous me connaissez, ce sujet d'économie en 2025. On avait dit, on voulait 5,4% de déficit. On a fait combien? 5,4.
Deux questions encore.
Pas parce que je suis
Montchalin
seule, mais parce qu'on y a mis tous les parlementaires, tous les syndicats, toutes les associations patronales, toutes les collectivités, tous les trimestres traversés. Et on a dit, vous savez quoi, réduire le déficit, ça peut pas être que sur les épaules
deux
de la ministre du budget.
Importantes,
c'est un sujet
encore
national.
L'une,
et on va continuer.
Sur le consentement à l'impôt, quand votre prédécesseur à Bercy, le patron de Bercy, monsieur Lombard, dit qu'il y a des milliers de contribuables parmi les plus aisés qui ne payent aucun aucun impôt sur le revenu. Vous dites, il ment, mais c'est pas possible, ça peut pas suffire de dire ça. Non. C'est pas possible.
Donc, qu'il y ait des gens dans notre pays.
Il a été ministre du budget.
Non, mais qu'il y ait des gens dans notre pays qui payent moins que ce qu'ils devraient. Ça fait un an, là aussi, que je vous bassine.
Non, mais il dit pas qu'ils payent pas assez. Ils disent des milliers de contribuables parmi les plus aisés qui ne payent aucun impôt sur le revenu.
Il n'y a pas. Ça n'existe. C'est pas vrai qu'il y a des dizaines de milliers. Ce qui est vrai.
Non, pardon. Pourquoi il dit ça?
Non. Il s'est d'ailleurs lui-même un peu précisé et corrigé ensuite.
Enfin, il était quand même ministre de l'économie. Il dit n'importe quoi.
Il a dit, et je le dis, ce qui est vrai. D'ailleurs, Éric Coquerel, le président de la commission des finances, insoumis. Il est venu
à Bercy. Sur BFM TV, dans un instant, il viendra répondre justement.
Il est venu à Bercy. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu ce qu'on connaît tous, et ce sur quoi on agit. C'est, il y a effectivement des milliers de personnes qui aujourd'hui payent moins d'impôts que ce qu'elles devraient, parce que nous avons des phénomènes d'optimisation, de suroptimisation fiscale, ce qui a amené le gouvernement, je vous le rappelle, à proposer une taxe sur les holdings. C'est l'article 3 du budget, et cette taxe sur les holdings va nous permettre, notamment, tel que nous
aboutissons... Donc ça ne sera plus qu'en 2026.
De sortir tous les biens personnels de ces holdings, parce que soit vous avez la fiscalité des entreprises pour des projets d'entreprise, soit vous avez des biens personnels qui ont une fiscalité personnelle. Et on va essayer d'arrêter cette espèce de confusion où vous bénéficiez de la fiscalité des entreprises pour vous constituer un patrimoine personnel. Ça amène à ce qu'effectivement, il y ait des dizaines, petites dizaines de milliers de personnes qui payent moins que ce qu'elles devraient. Et donc, nous, on lutte contre la fraude, on lutte contre la suroptimisation, mais je le dis vraiment très solennellement, s'il y avait des dizaines de milliers de personnes qui payaient zéro impôt sur le revenu alors qu'ils sont fortunés, un, ça fait longtemps qu'on l'aurait su, deux, ça fait longtemps qu'on l'aurait combattu, donc il y a la suroptimisation, et maintenant la combat.
Merci.
Et vous avez dans le budget beaucoup de mesures, parce que c'est aussi un enjeu, vous l'avez dit, de consentement à l'impôt, de justice, d'efficacité et de respect des Français avec les uns et les autres. Et donc sur ce sujet, ça fait un enjeu de travail, et il y a des résultats qui seront, je l'espère, dans le budget qui sera
Amélie de Montchalin, ministre du budget. Merci d'avoir répondu à mes questions. Il est 8h47 sur AMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Et comme tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes Publics, était mon invitée ce matin. Bruno Le Maire, vous vouliez réagir à cette interview?
Malherbe.
Oui.
Que de temps perdu, j'ai envie de dire, mais des semaines de négociations, hein, des psychodrames à répétition, être obligé de faire carpette devant les socialistes, faut le dire. Hein, et tout ça pourquoi? Pourquoi? Pour avoir un budget à la con, hein, qui ressemble à rien, et qui en plus, quand on est certain de dépasser, certainement, hein, mais ça dès octobre, on pouvait le faire, moi de mon temps. Souvenez-vous, madame de Valère, je vous torchais une bouse de budget en deux. Hein, on disait 49,3, pan, c'était plié en deux jours, hein. Il y avait des dépenses dans tous les sens, il y avait des fuites de partout, on est d'accord. Hein, mais au moins, mes budgets, hein, je les rendais en temps et en heure.
Voilà.
Hein, mais ça bloquait pas le pays pendant des mois. Hein, on était pragmatiques et lucides, on savait que ce budget, c'était de la dope, mais au moins, on passait à autre chose.
Voilà, merci.
Même vous, je les ai bien patients ce matin.
Oui, très. Ce matin, tiens, Marc-Olivier Fogiel est avec nous pour les titres de l'actualité.
Bonjour, et bonsoir, Marc-Olivier. Pauline.
Salut.
Et bonsoir, Pauline, salut à toute l'équipe, tout le monde est là. Aurel Guet, les enfants, Thibaut Texer et les Sophie Profond. Bonsoir à tous, l'actualité, c'est encore et toujours Donald Trump qui a été filmé faisant un doigt d'honneur, appelé un doigt d'honneur à un ouvrier dans une usine, un ouvrier qu'il avait interpellé au sujet de l'affaire Epstein. Eh bien, c'est bien la première fois que dans cette affaire Epstein, il est question d'un majeur. Ça y est, Thibaut Texer vient de l'avoir. Et puis, élection de Mister France, c'est Maxence Brouillet, ancien tennisman professionnel qui a été élu donc plus bel homme de France. Il avait été suspendu, précisons-le, pour corruption pendant 7 ans pour avoir perdu des matchs contre de l'argent. En même temps, faut le comprendre, c'est un joueur de tennis français. Hein. Quand t'es déjà sûr de perdre, autant en profiter pour prendre un petit billet. Hein. Et puis sport toujours, l'ancien champion olympique de natation Yannick Agnel sera jugé pour viol sur mineur. C'est donc très logiquement qu'on devrait bientôt le retrouver aux commandes d'une émission de CNews. Et puis la région Île-de-France a dévoilé son nouveau jingle sonore. Le nouveau jingle sonore, la région Île-de-France pour les transports. On l'écoute tout de suite en exclusivité sur antenne d'RMC, une fois n'est pas coutume. Oui.
C'est magnifique.
Oh, c'est bon. C'est bon.
C'est bonjour. Jean Castex, peut-être m'avez-vous reconnu.
Ah oui.
Non, pardon, j'étais dans l'émotion d'entendre cette symphonie. Oui, je tenais à rassurer les usagers de la RATP et du Transilien. Nous avons fait très attention afin, dans ce, avec ce jingle, afin de ne pas perturber les usagers. Le jingle change, oui. Mais attention, j'exigeais que les annonces restent les mêmes.
Ah oui, c'est vraiment important pour vous. Hein.
Voilà, ne soyez pas inquiète, Mme Malherbe.
Oh, si j'étais tellement inquiète.
Si vous prenez un transport en commun, rassurez-vous, vous aurez toujours droit, bien sûr, à votre petite annonce habituelle, vous savez, avec que l'on entend au micro à moitié inaudible, avec un micro qui crépite, avec une excuse toujours à la noix, toujours incompréhensible d'une rupture de caténaire causée par la chute d'un sanglier sur les voies en raison d'un incident voyageur causé par une feuille morte qui voulait mettre fin à ses jours. Voilà, vous le voyez, nous tenons à préserver la qualité de l'expérience client et à conserver intact le plaisir des transports en commun.
Merci Jean Castex. Emmanuel Macron nous a rejoint. Bonjour Monsieur le Président.
Oui, attendez, je sais.
Oui, c'est
oui, donc, comme j'ai un souci à mon œil.
Je crois que vous avez vu surtout, voilà, oui, vous avez un souci à votre œil, vous avez avec des lunettes de Tom Cruise. Hein.
Oui, j'avais mes lunettes, vous les avez mal levées, j'ai pu sortir. C'était une bonne excuse, j'avais très envie depuis 8 ans déjà de sortir mes lunettes de Tom Cruise.
Et c'est ce que je me suis dit, on voyait, hein, parce que vous vouliez répondre aussi à peut-être à Donald Trump.
Oui, alors non, parce que j'ai encore une réplique à faire juste avant. Oui, j'avais une rougeur. Oui, parce que les lunettes de... Vous savez que j'ai... Non, parce que... Non, je sens que vous ironisez sur Tom Cruise. Mais vous savez que j'ai un porte-avions aussi.
Oui.
Et dessus, j'ai quoi? J'ai les mêmes avions de chasse que Tom Cruise.
Vous
voyez? Et si Donald nous attaque, on est prêt à se défendre face à M. Trump. Donc, même si, vu l'état de nos armées, c'est vrai que c'est mission impossible. Comme Tom Cruise.
Alors, en réponse à Donald Trump,
Non, là, on parle des avions. Toutou, c'est plutôt les trains. Toutou,
vous voyez. En réponse à Donald Trump, vous avez proposé d'utiliser l'instrument anti-coercition, qui, en gros, limite les importations et gèle les investissements. Pour ça, il faut que ça passe avec les autres Européens qu'ils soient d'accord. Vous pensez que ça va passer?
Je n'ai pas compris votre question qui était un peu confuse. Je crois que vous avez perdu nos auditeurs. Encore plus qu'avec Mme de Montchalin. Vous avez perdu tout le monde. Donc, alors...
Voilà, ce que vous vouliez me dire, c'est alors, que c'était comme avec le Mercosur.
Oui, tout à fait. Alors, ce que je fais avec le Mercosur, c'est comme le Mercosur, je propose des trucs qui ne passent pas, mais au moins, j'ai fait le job, j'ai proposé. Vous savez, c'est pas évident de gouverner sans aucun pouvoir. En France... Vous le savez, je n'ai plus de pouvoir sur l'Assemblée. À l'international, je n'ai pas de pouvoir sur Trump. Comment vous dire? C'est un petit peu comme jouer au tennis contre Nadal, mais sans raquette.
Ah oui.
Ou vous faire une émission de radio, mais sans micro. Très peu de chances, en tout cas pour Nadal, de gagner le match.
Oui, ça marche moins bien, c'est sûr. Merci, monsieur le Président. Alain Marchal nous rejoint pour nous présenter le sommaire des grandes gueules. Quel est le programme, Alain?
Eh bien, bonjour Apolline. Aujourd'hui, dans les GG, nous reviendrons bien sûr sur les tensions autour du Groenland avec notre spécialiste Bernard Jansin, qui est frigoriste à Rungis et qui en plus a regardé l'âge de glace 2 avec son petit-fils. Il viendra donc témoigner à juste titre dans les GG. Puis, quelles conséquences après que Donald Trump ait annoncé une hausse des droits de douane? Nous en parlerons avec Serge, qui est bien placé pour en parler puisqu'il travaille au musée d'Orsay et qu'il connaît donc très bien le douanier Rousseau. Et puis enfin, nous reviendrons sur le procès de Marine Le Pen avec Ricardo González. Ricardo González qui connaît bien le sujet des emplois fictifs puisque justement cela fait 8 ans déjà qu'il est professeur de Zumba au Sénat.
Ah oui.
Voilà que chaque matin, les meilleurs experts sont dans les GG.
Merci Nicolas, tous les jours à 8h50 et à tout moment en podcast. Dans un instant, GG, quel est le programme, Alain Levray?
Ah, on a un face-à-face qu'on attend avec impatience dans les GG, puisque Charles Consigny avait dit du Haut Commissariat au Plan qu'il fallait le supprimer parce que ça ne servait à rien. Le Haut Commissaire au Plan, Clément Beaune, sera face à Charles Consigny dans les Grandes Gueules. Dans un instant, les GG, c'est de 9h à midi. À tout de suite.